Je vous rappelle que ce colloque est enregistré. Je vous invite à nouveau à fermer vos téléphones cellulaires. Nous entreprenons donc la quatrième et dernière séance de notre colloque consacrée à la vulgarisation et la diffusion de l'histoire. Pour animer cette séance, je vais céder la parole à un historien, professeur, auteur, chroniqueur, animateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Lionel Groulx, Éric Bédard.
Merci beaucoup, Pierre. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette dernière séance, cette quatrième et dernière séance de ce colloque dédié, bien sûr, à Lionel Groulx, mais à toute la question de la diffusion de l'histoire. On sait que Lionel Groulx a fait une grande contribution historiographique. On en a parlé hier lors de la première séance, la contribution historiographique majeure de Lionel Groulx. On a parlé évidemment de sa contribution aussi aux grands débats de société, aux grands débats nationaux qui ont animé le Canada français et le Québec moderne. Mais il ne faut pas oublier, et c'est pour ça qu'on a cette séance d'aujourd'hui, et qu'on a aussi eu cette séance de ce matin, que Lionel Groulx a été très préoccupé d'atteindre le public. Et pour ceux d'ailleurs que cette question intéresse, il était fin stratège, le chanoine. Il avait des stratégies pour faire parler de lui, faire parler de ses écrits, s'assurer que ses livres atteignaient le grand public. Et l'historienne qui a étudié cette question-là de façon absolument remarquable, c'est Marie-Pierre Luneau, Le mythe du berger. Elle a écrit un livre chez Loméac sur cette question. Alors, Lionel Groulx a été très soucieux d'assurer justement la diffusion, la vulgarisation de l'histoire par ses grandes conférences publiques, par ses interventions publiques, par ses écrits dans les journaux, par même des conférences à la radio qui vont mener à sa grande synthèse de l'histoire du Canada français. Et donc, parler de Lionel Groulx, c'est aussi parler de toute cette dimension de l'histoire publique, de la diffusion de l'histoire. Donc, l'histoire qui n'est pas confinée au milieu des historiens, au département d'histoire, à la confrérie des historiens, mais aussi au grand public. Il suffit, plusieurs ici sont historiens, il suffit d'être invité dans une société d'histoire, on a un représentant de la Fédération Histoire Québec ici, pour s'apercevoir qu'il y a des gens qui nous en apprennent, qu'il y a des passionnés d'histoire qui font ça à temps libre, qui adorent ça, qui en mangent, qui achètent les romans de Micheline de Lachance et de d'autres. Il y a des passionnés d'histoire qui s'intéressent à toutes ces questions, qui sont partout. Donc, cette table ronde est une table ronde où on veut faire un peu le tour de cette question, de la diffusion de l'histoire, à l'aide de personnes qui contribuent par leur métier dans différents secteurs de la vie publique à cette diffusion de l'histoire. Donc, nous avons sept panélistes qui vont s'adresser à vous pendant à peu près, c'est une grande table, comme vous voyez. Ça ressemble un peu aux assemblées générales de la CSN. Tout l'exécutif est là. Mais je ne suis pas le secrétaire général. Donc, c'est une grande table. Il n'y aura pas de vote de grève. Une grande table, donc 5 à 7 minutes par personne. Et là, il n'y aurait pas de feuilles qui vont circuler. D'abord, vous êtes trop loin, Olivier Côté. Quand je vais vous dire, donc, en conclusion, vous allez comprendre que ça achève. Ça achève. Mais il y a pas le plancher va pas s'ouvrir sous vos. Alors, il n'y a pas de danger. Donc, en conclusion, ça sera... Donc, au terme de ces échanges, de ces présentations de 5 à 7 minutes, il y aura des échanges avec vous, la salle, entre vous, panélistes. Et pour clore cette grande symphonie, eh bien nul autre que Denis Vaugeois, qui lui a été certainement très très engagé dans cette diffusion publique de l'histoire. Donc on va commencer tout honneur. On va commencer par Yves Beauregard, Yves Beauregard est directeur de la revue Cap au Diamant, une revue vraiment de haute tenue qui existe depuis de nombreuses années. Donc, il va nous présenter sa petite communication de 5 à 7 minutes, petite histoire d'une grande revue. À vous la parole.
Merci. Alors, je voudrais d'abord remercier le colloque de m'avoir invité à ce moment important de la revue. Alors, ce mois-ci, nous fêtons les 30 ans de Capot Diamant. Concrètement, ça veut dire entre 7 et 8 000 pages, 121 numéros, 11 hors-série et un petit volume, un jour. Donc, Capot Diamant, ça vient d'où? Ça vient de 1985, revue née dans une université. Inspirée du mouvement de la Public History, dans lequel avait trempé un peu l'âme fondatrice Marc Vallière, après une sabbatique aux États-Unis. On cherchait à l'époque comment diffuser nos connaissances en histoire, surtout les résultats de thèses. Il y avait beaucoup de thésards sur la ville de Québec autour de Marc Vallière. Comment diffuser ça? Évidemment, il y avait le moyen classique de faire des livres. Mais on voulait un autre véhicule pour être capable de rejoindre plus de monde. Au même moment, les gens de la Fédération vont aimer ça, la Société d'histoire de Québec, la Société historique de Québec, elle aussi cherchait un moyen de communiquer l'histoire de manière plus large. Elle aussi faisait un cahier d'histoire par année. Alors, si la thématique avait l'heure de pas plaire à leurs membres, ben, ils faisaient un coup d'épée dans l'eau. Alors, cette convergence de tous ces idées, de ces projets, est née donc la revue Capot Diamant. Capot Diamant, premier toponyme des Européens sur le promontoire où est la ville de Québec. Donc, dans un premier temps, évidemment, on va toujours chercher des modèles inspirés. On a regardé, notre grand modèle était la revue L'Histoire en France, née quelques temps avant nous. Alors, c'est ce qui va servir un peu de modèle. Il y avait des journalistes aussi près de certains membres des fondateurs. Alors, évidemment, le premier contenu, c'était les trois grands S qui apportent le succès dans les médias. Sexe, sang et sport. Si vous regardez les articles, du premier numéro portent exactement là-dessus. Alors donc, les premiers numéros sont consacrés entièrement à la ville de Québec. Ils vont paraître quatre fois par année, la revue. Article long, article court, un petit peu de rubrique. Alors, on va tenir un peu ce régime-là pendant quelques temps. Mais les intellectuels que nous étions à l'époque, peut-être trouvaient pas ça suffisamment intéressant pour traiter une question. Alors, à partir de 1987, on va ouvrir nos horizons et on va rayonner non seulement sur la ville de Québec, mais sur les grands alentours pour être capable d'aller chercher quelques sous. Parce que ce qui est intéressant dans notre cas, on est aussi un entrepreneur. Voyez-vous, c'est beau faire de l'histoire, mais il faut être capable de la vendre, comme disait mon ami Vaugeois. C'est beau de faire des livres, mais il faut aussi les vendre. Donc, il fallait trouver des subventions. Alors, en faisant du régional, on pouvait avoir des subventions avec le Conseil de la culture. Ben, ça va durer 2-3 numéros. Et à partir de 87, on va procéder par thématique. Parce qu'on trouvait que nous, là, c'était plus facile de faire le tour d'une question dans 5, 6 ou 7 articles, bien décortiquer, voir qui avait travaillé ça. Donc, ce sera le processus. Mais comme on voulait pas retrouver là, les aléas de la Société historique de Québec sur les thématiques qui plaisaient pas aux lecteurs, ben on a rajouté une partie divertissement, c'est-à-dire 10 rubriques sur des thèmes tout à fait différents. Les archives, la généalogie, les agendas, surtout beaucoup, beaucoup de comptes rendus de volume, etc. Donc c'était un peu la recette qu'on suit jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui préside au choix des thèmes, qui est fait par un comité de rédaction qui actuellement est très, très grand et on est 10 membres. Nous sommes tous des historiens et des historiennes avec minimalement de maîtrise, mais plusieurs ont des doctorats et plusieurs aussi ont des formations en d'autres sujets. Parce qu'il faut dire que la revue, elle est très représentative de son terreau de naissance. On est né à l'Université Laval, à la Faculté des Lettres. Je pense que Laval est la seule université dont le département d'histoire est à la faculté des lettres. Et on est né dans un département pluridisciplinaire. Ça va nous marquer et ça nous marque toujours. Nous sommes ouverts aux disciplines sœurs qui étaient dans notre département, c'est-à-dire l'archéologie, l'archivistique, la muséologie, l'ethnologie. Donc, nos textes s'ouvrent d'abord à toutes ces disciplines-là. Et les grandes thématiques. Donc, notre comité de rédaction est inspiré de grandes idées, de grandes avenues. Et d'après ce qu'on a eu ce matin, ben je pense que ce qu'on fait comme histoire, on est tout à fait représentatif de l'époque actuelle. On est pas vraiment d'époque de Lionel Groulx. Donc, on est une histoire assez plurielle. Dans les grandes lignes, on s'intéresse aux francophones d'Amérique. Donc, on a fait un numéro sur les Acadiens, un numéro sur les Franco-Américains. On a eu des articles aussi sur les Nord-Ontariens. Donc, on s'intéresse, on a un souci des francophones d'Amérique. On s'intéresse à la grande composante ethnique, la grande mosaïque ethnique du Québec. Donc, on a eu des numéros sur les Juifs, d'ailleurs dirigés par Denis, des numéros sur les Irlandais, sur les Allemands, sur l'héritage britannique. On s'intéresse aux minorités ou à des groupes négligés, comme on disait ce matin, l'histoire des femmes, l'histoire des Noirs, des gays, des Amérindiens. On s'intéresse aussi, évidemment, aux commémorations et aux anniversaires, comme un numéro de l'automne qui s'en vient soulignera le bicentenaire de la ville de Drummondville. Parce qu'il faut aussi faire des percées, faire des clins d'œil régionaux. On en a déjà fait à Trois-Rivières, on en a déjà fait en Gaspésie, ou des choses un peu comme ça. Les grandes périodes de notre histoire, évidemment, c'est intéressant, parce qu'on le fait par traitement de décennies. Donc, on a fait un numéro sur la décennie des années 50, un numéro sur les années 60, et on poursuivra sans doute. On s'intéresse aussi à l'imaginaire des Québécois. Un numéro qui était très populaire, évidemment, c'était notre numéro sur les hommes forts. Et il y en aura certainement d'autres aussi. Donc, c'est un petit peu en grand les orientations qui nous amènent à faire nos choix. Évidemment, les anniversaires, on se branche beaucoup à ces grands anniversaires-là, parce que souvent, ça nous permet de faire des partenariats. Comme le numéro qui s'en vient à l'été, bien évidemment, il faut souligner le 350e anniversaire du régiment de Carignan, qui est un des groupes importants de colonisation ici. Et on a un partenariat avec le musée du Château Ramsay, qui a le leadership de cette commémoration-là. Donc, ça nous permet de faire des lancements, faire des joint ventures en anglais, pour faire connaître nos numéros. Donc, en gros, c'est ça. Mais une grande caractéristique, je dirais, de cette revue qui existe depuis 30 ans, c'est l'inconfort, si on regroupe ça. Nous sommes nés dans une université il y a 30 ans, où encore, c'était pas bien vu de faire de la vulgarisation. On appelait ça vulgarisation. Aujourd'hui, on dit communication de l'histoire. Évidemment, il y avait certains de nos professeurs qui nous regardaient. Ça durera pas longtemps. Ça durera pas longtemps. Après ça, on a dit qu'il faut vivre. OK, on a eu l'appui de la Société historique de Québec au départ, mais on est allé chercher des sous. Ou en 1985, il fallait trouver des sous pour l'histoire au ministère du loisir, chasse et pêche. Parce que nous étions considérés comme un loisir. Alors, c'est les sous, c'est là qu'on est allé en chercher un tout petit peu. Où on n'en a pas trouvé des sous? Ben, c'est au Conseil des arts du Canada. Ils ont toujours refusé de subventionner Kaposiaman, né dans une faculté des lettres, parce que nous n'étions pas des lettres, ni des arts. Et pourtant, on avait fait une longue démonstration dans le premier tome du DOLC, du Dictionnaire des œuvres littéraires. Je pense bien qu'il y a des œuvres de Lionel Groulx. Alors, pourquoi après, nous, donc on a beau faire toutes les représentations, jamais nous avons reçu un sou du Conseil des arts du Canada. Après ça, après le ministère des loisirs, chasse et pêche, on s'est retrouvé au ministère de la culture, les affaires culturelles à l'époque, avec un fonctionnaire qui nous gérait cette semaine, bon, quelque temps. Naît le Conseil des arts et lettres Québec. Le ministère prend toutes ses revues, puis il y en avait beaucoup, les envoie en paquet au Conseil des arts et lettres. Le temps que les fonctionnaires se réveillent, et comme ils sont très branchés sur le Conseil des arts du Canada, ils disent « Ouah, qu'est-ce que c'est ça, une revue d'histoire ?» Ça n'a pas d'affaire chez nous. Même chose pour mes amis de continuité. Et il y avait quelques revues universitaires à l'époque, comme Recherche amérindienne, Études inuites et quelque chose. Alors, ils ont dit, non, c'est de valeur, là, vous n'avez pas d'affaires ici. Ils prennent les revues, ils sont tous retournés au ministère. Et là, on était gérés pendant quelques années par un fonctionnaire. On avait chacun un fonctionnaire qui gérait les sous qui nous étaient accordés. Aucun ajustement par rapport à ce que le Conseil des arts et lettres du Québec avait. Et à la prise du pouvoir par Jean Charest, je pense, son premier ou deuxième mandat, on dit, des revues au ministère de la Culture, ça n'a pas de bon sens. Il prend le paquet, il renvoie tout ça au ministère, au Conseil des arts et lettres, avec pas les subventions et obligations de nous soutenir. Alors, encore actuellement, au Conseil des arts et lettres, les revues culturelles, pas juste Kaposiaman, nous ne sommes même pas une rubrique, on n'est même pas un secteur. Si vous cherchez Kaposiaman au Conseil des arts et lettres, nous sommes de la littérature.
En conclusion, s'il vous plaît.
Conclusion. Donc, inconfort encore là, pas de jury adapté à nous. Et donc, c'est encore notre cas. Et alors, pour en finir, bien évidemment, nous faisons actuellement face, comme dans le monde de l'édition, à un grand problème. Est-ce que la lecture est en train de devenir de moins en moins un loisir? Les jeunes élevés par le web égale gratuité, donc baisse d'abonnement, baisse de revenus autonomes, etc. Et le numérique, qui coûte très cher et dont on ne voit pas encore vraiment là, que ce sera un produit de substitution qu'on puisse durer encore longtemps. Donc, beaucoup de questions, un avenir qu'on aimerait plus brillant.
Merci beaucoup, Monsieur Beauregard. L'inconfort risque de se poursuivre.
Oh oui.
Maintenant, on passe la parole à Olivier Côté. Il est conseiller au ministère de la Culture et des Communications. Peut-être quelqu'un pour vous, Monsieur Beauregard. Et le titre de sa communication, « Historien, journaliste et vulgarisateur du passé » dans la série télévisée « Le Canada, une histoire populaire » 1995-2002. Et ça a été l'objet d'une thèse de doctorat qu'il a faite à l'Université Laval et d'un livre qu'il a publié aux éditions du Septentrion. Donc, à vous la parole, Olivier Côté.
Merci. Je crois que le son n'est pas l'air de fonctionner. Ça va bien? OK. Ben d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très flatté par l'invitation, surtout que je m'intéresse beaucoup à la production télévisuelle de séries télé de nature historique, tout ça. Donc, de mon côté, je vous propose une incursion, en quelque sorte, dans la série « Le Canada, une histoire populaire ». Il faut savoir que depuis 30 ans, au Québec, au Canada, eh bien, évidemment, les historiens ne sont pas les seuls à vulgariser le passé. Il y a également les journalistes. Martin Paquette nous mentionnait ce matin qu'il y avait les muséologues, il y avait les anthropologues, les ethnologues. Moi, je vous propose de vous montrer, en quelque sorte, comment les journalistes, les historiens interagissent dans la production d'une série télé d'envergure. Faut dire que ces deux types d'acteurs, des acteurs qui ont chacun leur discours d'autorité sur le passé, leur appareillage méthodologique. Je vais vous montrer un peu comment ça se répercute dans la série. Faut savoir que j'ai réalisé pas moins de 19 entrevues avec des historiens, des journalistes, et que j'ai eu accès aux scénarios de la série, et j'ai même eu accès aux correspondances des différents acteurs. Alors, la série « Le Canada, une histoire populaire », c'est quoi exactement? Bien, faut savoir que c'est une série qui a été diffusée en 2000-2002, c'est un docu-fiction ou un docudrame, c'est-à-dire qu'il y a des reconstitutions historiques. On présente des documents iconographiques, des extraits de films, tout ça. C'est une série qui est expressément journalistique. C'est une production radio-canadienne, CBC Radio-Canada, une coproduction, en fait. Il n'y a pas moins de 17 épisodes qui ont été produits dans les deux langues officielles. 30 millions de dollars investis. On parle également d'une série là, qui s'étend là, des origines autochtones du pays à aujourd'hui. Et dont la production a commencé après 1995 dans un contexte d'incertitude identitaire au Canada anglais. Donc, pour faire bref, c'est une immense série. Et puis, les journalistes ont eu vraiment le haut du pavé dans toute la production de la série. Ils avaient le pouvoir de faire les choix éditoriaux, les grandes orientations, les grandes interprétations de la série. Les journalistes de Radio-Canada, ils se situent en quelque sorte dans une position délicate parce qu'ils doivent à la fois se conformer aux attentes du pouvoir établi, c'est-à-dire qu'il faut savoir que comme le financement de Radio-Canada est non récurrent, eh bien, ça met une épée de Damoclès sur la production de contenu. Mais également, les journalistes, ils ont comme idéal de défendre un point de vue critique indépendant. Donc, ils partagent en quelque sorte une idéologie socio-professionnelle, l'idée d'objectivité, d'intégrité, d'indépendance. Et fait particulier pour la série, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi l'idée d'équité inclusive, de clientélisme. C'est-à-dire qu'on cherche à rendre hommage, rendre grâce à chacune des parties constituantes de la société. Donc, chacun a le droit d'avoir son point de vue là, présenté, que ce soit les groupes ethnoculturels, les groupes sociaux, en vertu d'une sorte d'équité symétrique. L'exemple le plus frappant que je pourrais vous donner, c'est dans le traitement de la conquête. Il y avait la volonté d'inclure un point de vue qu'on disait anglais, un point de vue français. Hubert Gendron, qui était réalisateur-coordonnateur, disait que, je cite, « Nous avons fait un très bon travail en disant « Voici comment les Français la voient, voici comment les Anglais l'aperçoivent. C'est une histoire sans point de vue, car c'est une histoire de différents points de vue. L'épisode ne vous impose pas de structure de pensée, d'interprétation. Il ne vous dicte pas une conclusion. Mais évidemment, à vouloir plaire à tout le monde, ben on plaît à personne en quelque sorte. Dans cette volonté journalistique d'inclusion cache une sorte de volonté de maintenir la paix sociale dans la société. On présente des interprétations consensuelles qui sont mises de l'avant. Du côté des historiens de la série, il faut savoir qu'ils ont avant tout été recrutés pour s'assurer de l'exactitude et de la justesse des propos évoqués, des costumes, des décors. Pour les journalistes de Radio-Canada, eh bien, les historiens, leur seul rôle, c'était vraiment, pour l'essentiel, la vérification des faits. Donc, il y a pas moins de 80 historiens qui ont été consultés. Il y avait 8 historiens principaux qui avaient plus de pouvoir, mais pour la plupart, ils étaient complètement en dehors des équipes de production, du processus décisionnel. Ils ne contrôlaient pas le contenu de la série. Ils ont avant tout été consultés pour leur expertise. Donc, au net, l'impact des historiens est très limité, à telle enseigne aussi également que sur le plan de la forme, la série ne propose, on ne voit aucun historien à l'écran, parce qu'on jugeait que ça aurait été trop ennuyant pour le téléspectateur de voir des historiens débattre de sujets historiques. Donc, au final, les historiens recrutés, c'était des historiens universitaires. Ils partagent quand même, ces gens-là, un ensemble de règles, un ensemble de valeurs communes, un ethos, disait M. Martin Paquette ce matin. Ils ont une approche commune, c'est-à-dire, encore une fois, la recherche de la vérité historique dans l'empirisme. Ils veulent bien, c'est vrai, ils veulent établir les faits tels qu'ils se sont produits dans le passé. Mais dans l'absolu, ils appartiennent chacun à un champ de spécialisation. Donc, on se retrouve avec des historiens qui ne disent pas toujours la même chose sur tel ou tel événement ou telle interprétation. Généralement, les historiens reprochent à la série sa simplification des enjeux historiques, sa dramatisation du passé. Ça, j'ai noté, c'est à la fois, ça pourrait être perçu comme une critique valable, mais aussi comme une absence de connaissance, en quelque sorte, des limites du médium télévisuel. Donc, on est au final, quand on regarde là, comment la série a été produite, c'est que les journalistes de Radio-Canada partageaient une idéologie socioprofessionnelle, puis les historiens, au-delà de leur partage du même appareillage méthodologique, de la même préoccupation d'empirisme, ben c'était incohérent en quelque sorte parce qu'ils étaient consultés individuellement. Ils ne proposaient pas un récit cohérent national aux journalistes, alors que les journalistes, eux, ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient présenter, c'est-à-dire une présentation d'un nation building canadien à la fois multiculturel et qui valorise l'histoire politico-militaire. Donc, pour conclure, je dirais que la production de la série nous apprend plusieurs choses. D'abord, que les historiens, que la consultation des historiens de manière individuelle limite gravement leur récit et leur pouvoir sur le récit proposé, que les historiens, quand ils sont consultés, ont des propos contradictoires sur les mêmes événements, à telle enseigne que certains historiens vont réinterpréter ce que d'autres historiens disent en disant « ben voici ce que dit tel historien, au fond, c'est pas du tout valide, voici ce que je propose ». Donc, ils sont en compétition constante dans la production de la série. Et puis, il faut savoir aussi qu'ils professent parfois certains régionalismes, du nationalisme. Donc, les historiens vraiment ont un faible impact sur le récit. Puis, pour avoir analysé la série, je me rends compte que, bon, la présentation du passé par les journalistes, évidemment, ne plaît pas toujours aux historiens. Et parfois, pour beaucoup d'historiens, ben, ça ne tend pas vers une certaine véracité historique. Ça ne défend pas, les journalistes ne défendent pas toujours les intérêts de l'histoire tel qu'on l'entend. Donc, je tiens à réitérer en guise de conclusion que c'est important, à mon avis, que les historiens s'approprient le médium télévisuel parce que ça demeure, malgré la vague actuelle, la tangente médias sociaux, tout ça, je pense que c'est important que les historiens s'approprient ce médium-là et aussi qu'ils occupent la sphère publique parce que c'est bien important de mettre en valeur leur savoir. faut que le savoir historien soit au service d'une critique constructive, au service, en quelque sorte, des enjeux pour mettre en valeur, pour donner un éclairage nouveau sur les enjeux actuels. Alors voilà, je vous remercie de votre écoute.
Merci beaucoup. Avant de présenter notre prochaine conférencière, monsieur l'organisateur, il faudrait une autre chaise, puisque madame Lanouette, qui est l'une des... oui, mais enfin, si on pouvait juste ajouter une chaise pour l'intégrer à notre grand panel. Merci beaucoup. On va se pousser un tout petit peu. Excusez-nous, hein, c'est pas volontaire du tout. Ah oui, pas de problème. Donc, je vous présente, sans plus tarder, notre prochaine conférencière, participante donc à cette table. C'est madame Catherine Ferland. Catherine Ferland est une historienne. Elle a publié, il y a quelques années, chez Septentrion, Bacchus en Canada, un livre sur le rapport, l'histoire de l'alcool et le rapport à l'alcool à l'époque de la Nouvelle-France. Un ouvrage que je vous recommande. Elle a publié tout récemment un livre sur la Corriveau. Qui a été finaliste au prix du gouverneur général du Canada. Elle est aussi une chroniqueuse, elle a sa propre émission de radio, si je me souviens bien.
Je suis en relâche en ce moment.
Vous êtes en relâche, bon. Mais en tout cas, vous l'avez longtemps tenue, vous êtes une conférencière. Donc je vous présente Catherine Ferland, le titre de sa communication, « De l'érudition à la passion ».
Bonjour tout le monde. Ça me fait bizarre d'être assise. Habituellement, quand je suis en public, je suis debout. Mais là, je vais me garder une petite gêne pour pas incommoder mes copanélistes. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture et pour passer le temps de Québec jusqu'ici, on s'est mis la trame sonore du dernier des Mohicans. Ça vous dit quelque chose sûrement. Cette musique-là qui est tellement épique, qui vient vraiment chercher des émotions. Et ça me faisait réfléchir précisément au thème du colloque pour lequel j'ai le plaisir de participer aujourd'hui en tant que panéliste, c'est-à-dire ce rapport-là de l'historien à la transmission. Parce que comme historien, on est amené bien sûr à produire des connaissances, on va chercher, on les met en forme, mais ensuite, il faut pas que ça en reste là, il faut vraiment faire un effort de médiatisation. Et quand j'écoutais cette musique-là, qui vient tellement nous chercher d'un point de vue émotionnel, je me disais... C'est peut-être là, parfois, que comme historien, on a un peu de difficulté à aller passer nos contenus historiques. Dans le cadre de cette intervention-là, moi, ce que je veux peut-être vous démontrer, c'est qu'il y a peut-être trois constats qu'on peut faire en tant qu'historien en ce moment, en 2015. Le premier constat, c'est qu'au niveau du public, je pense qu'il y a un intérêt certain pour l'histoire. L'affaire, c'est que des fois, le public ne le sait pas qu'il est intéressé par l'histoire parce que ça a l'air tellement loin de leurs préoccupations. Monsieur, madame, tout le monde, l'histoire, bon, c'est plate. C'est des affaires de quand j'étais jeune à l'école puis ça m'ennuyait. Mais aussitôt qu'on se met à leur parler du passé dans des mots qu'ils vont comprendre, que ça soit dans des chroniques de journal, que ça soit en face-à-face dans une conférence publique, on se rend compte que les gens sont incroyablement assoiffé de connaissances historiques. C'est juste qu'ils le savent pas. Alors, le premier constat, c'est cette soif-là, elle est là, mais il faut aller l'éveiller. Deuxième constat, comme historien, on a souvent du mal à sortir de notre zone de confort. On est des produits universitaires et parfois, ça prend du temps avant de se détacher un peu de ce cadre-là institutionnel. Et pourtant, si on veut que les savoirs historiques ne restent pas dans des livres savants qui transpercent, on pourrait dire, la barrière vers l'histoire publique, on a un peu ce devoir-là. On peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, de dire comment, comme historien, on peut faire le pas vers le public. Parce que c'est pas le public qui va faire le pas vers nous. Alors, c'est le deuxième constat que je voulais faire. Le troisième constat, c'est de se dire, au niveau de la formation des historiens actuellement dans les universités québécoises, il y a vraiment un manque au niveau de cette habileté-là de savoir communiquer. Quand on est en thèse, quand on est en mémoire de maîtrise, mais vraiment, il y a un manque ici flagrant au niveau de la formation, de dire comment on va être capable d'aller parler ensuite de nos savoirs. Il y a des colloques étudiants, c'est certain, mais il n'y a absolument aucune obligation de la part de l'étudiant de s'inscrire à ces colloques et d'y prendre part, de prendre la parole. C'est ce qui fait que quelqu'un peut passer 7, 8 ans, peut-être même un peu plus, sur les bancs de l'université, dans sa thèse, le nez dans ses livres, et ne jamais être astreint à aller communiquer ce qu'il a appris. Ce qui en résulte, dans le fond, c'est une incroyable perte au niveau des savoirs parce que il y a des thèses brillantes, il y a des idées intéressantes, il y a des idées importantes qui demeurent enfermées dans des livres, dans des thèses et que le public n'aura jamais accès, auxquelles le public n'aura jamais accès parce que cette démarche-là n'est pas faite. Alors, comme historien, comment on pourrait donner un coup de pouce aux étudiants qui sont en histoire pour essayer de leur donner les habiletés pour pouvoir passer cette barrière-là et aller vers le public? Donc ça, c'était un peu les trois constats, mais je me dis maintenant, quelles sont les solutions par rapport à ça? Ben c'est certain que la formation, oui, pourrait être importante. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des sciences, vous me permettrez l'expression, mais des sciences pures, on voit que la participation au colloque, par exemple, est obligatoire dans bien des domaines, dans bien des programmes. Le fait de devoir aller prendre la parole pour expliquer fait partie du cursus, ce qui n'est pas le cas actuellement dans les histoires, dans les programmes d'histoire, dans les universités du Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben justement, de rendre obligatoire une participation même citoyenne. C'est certain que c'est délicat parce que ça rentre un petit peu dans la bulle de l'historien ou de l'historienne en devenir, mais de le forcer un peu à se mouiller, à se compromettre en allant parler de ses recherches dans des conférences publiques. Vous savez peut-être cette formule qui existe, qui est merveilleuse, de la thèse en 180 secondes. C'est un concept qui oblige l'étudiant, en quelque sorte, à décrire son sujet de thèse ou de mémoire en 3 minutes. C'est un bel exercice de synthèse et c'est aussi un bel exercice de prise de parole. C'est vraiment là le nœud de la guerre, je pense. On peut pas, en 2015, oublier que l'historien fait partie de la société, fait partie d'une société qui change à une vitesse incroyable, que ça soit au niveau médiatique, avec toutes les possibilités. Tout à l'heure, Olivier parlait de la télévision, mais la télévision, elle est dans notre paysage depuis déjà tellement longtemps, et pourtant, de voir qu'il y a très peu d'historiens qui se sont appropriés ce médium-là, qui ont osé faire le pas pour un Éric Bédard, pour un Jacques Lacourcière, combien d'autres sont derrière leur bureau dans leur pile de livres. Ça prend des historiens pour chercher, mais ça prend aussi des historiens pour la médiatisation. Alors, je pense que c'est important de s'approprier les nouveaux médias, de s'approprier les médias électroniques, de prendre notre place. Il y a quelques temps, quand il y a eu le débat d'historiens dans la presse écrite, c'était intéressant de voir les réactions des gens qui sont pas dans le domaine, de dire « Ah, tiens, il y a des historiens dans la cité. » Ben voyons donc, grosse nouvelle. Donc, c'est important qu'on prenne la place, qui nous revient dans la société, qu'on affirme les savoirs qu'on détient et qu'on est capable d'amener jusqu'aux gens parce que eux, manifestement, ne viendront pas jusqu'à nous. Alors, peut-être qu'on n'a pas de dernier des Mohicans ici, mais on a des Pierre Lemoine d'Iberville, on a d'autres grandes figures comme ça pour essayer d'aller susciter des passions chez le grand public. L'intérêt de la biographie ici est évident parce que pour les gens, ça fait quelque chose de tangible auquel se raccrocher pour aborder une période, par exemple. Alors, je pense qu'il faut pas avoir peur de proposer ce type d'histoire-là au grand public pour après ça, ben, les appâter puis les amener tranquillement vers des savoirs un petit peu plus savants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Catherine. Alors, notre prochaine invitée pour cette table ronde, Sophie Imbeau. Alors, Sophie Imbeau est une historienne. C'est une spécialiste du 18e siècle, une spécialiste des familles seigneuriales canadiennes au 18e siècle. Elle avait publié un ouvrage, je pense, son mémoire de maîtrise sur le sujet. Et elle a publié un texte que j'ai trouvé remarquable dans le livre 1763. C'est un livre que je vous recommande, qui est un recueil de textes sur ce traité de Paris, mais tout le contexte sur la monnaie de carte. Les monnaies, c'est un sujet très compliqué, puis elle a réussi pour nous à décortiquer ce sujet que moi, je m'y retrouvais plus, là. J'essayais de comprendre moi-même. Je faisais semblant que je connaissais ça, là, mais je trouvais ça très compliqué. Non, vraiment. Et merci beaucoup à Sophie Imbeau. Donc, elle va nous présenter. Elle est aussi éditrice à Septentrion, et donc elle a un patron qui lui permet de poursuivre ses recherches. On doit le remercier. On le remerciera plus tard. Donc, pour l'instant, elle nous parle du sujet pour lequel elle est ici. Donc, c'est le livre Porteur d'histoire. Elle est donc éditrice chez Septentrion. Merci.
Merci, Éric. Ben, j'ai trouvé Catherine très, très intéressante. Je devais débuter autrement, mais tu m'as fait vraiment bondir dans ton sens. abondé, finalement. Le livre, oui, c'est le principal outil de communication de l'historien. Mais, comme Catherine l'a dit, il faut pas oublier que c'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres outils pour communiquer son savoir. Et c'est fou, comme il y a des historiens qui figent devant une tribune, une assemblée. Et ça m'a beaucoup interpellée, ton intervention. On va continuer à réfléchir sur cette question. Donc, je vais débuter mon intervention par une citation de Fernand Braudel que j'affectionne particulièrement, qui s'attarde au temps. Le présent sans passé n'a pas d'avenir. Pour moi, cette citation reflète parfaitement ce qu'est un livre d'histoire, un essai historique. Le contenu va s'intéresser au passé, mais le livre, comme objet, va s'inscrire dans le présent. C'est un historien ou une historienne qui a pris le temps de rédiger des centaines de pages. Donc, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le présent avec tout son bagage intellectuel, mais aussi ses valeurs, ses intérêts, ses perceptions. Et le livre est reçu à sa sortie par son public contemporain. Mais l'historien, c'est un être ratoureux, il s'assure, par le livre en fait, de pérenniser sa pensée. Donc, il va laisser un livre aux générations futures qui va lui survivre. On m'a demandé à l'Association nationale des éditeurs de livres, je suis membre aussi du conseil d'administration, on m'a demandé d'écrire dans cette revue collection un petit texte sur l'essai historique au Québec. J'ai constaté que l'essai historique est tout jeune, en fait, au Québec. Il n'y a même pas 100 ans. C'est avec des personnes comme Lionel Groulx que ce créneau-là a pu se développer. Je vais vous inviter d'ailleurs à lire l'excellent ouvrage d'Éric Bédard, « Recours aux sources », dans lequel j'ai beaucoup puisé pour voir comment s'était développé toutes ces générations d'historiens-là. J'ai appris, en fait, que c'est avec Guy Frégo que le métier d'historien va se professionnaliser. Ça, c'est vraiment la première génération d'historiens professionnels au Québec. Donc, pour chaque génération a été marquée par un courant de pensée. Bon, on n'a qu'à penser à l'École de Montréal versus l'École de Québec. Et ces écoles-là se sont servies, en fait, des livres pour transmettre leurs pensées. C'est ce que j'entends par le livre porteur d'histoire. Le sujet est lui-même historique, mais aussi la personne qui l'a écrit porte en elle cette histoire-là. Je travaille au Septentrion à faire ces beaux livres comme celui d'Olivier, de Catherine, de Gilles Laporte, tout au bout, depuis 10 ans. On est une maison spécialisée en histoire qui a cette année 26 ans. On a un catalogue qui compte plus de 700 ouvrages, donc c'est pas rien. On s'adresse principalement à deux publics. Un public plus universitaire et aussi au grand public. Parce que il faut bien se dire que le Québec, c'est quand même un petit marché. Donc, il faut vraiment s'assurer de communiquer au plus grand nombre possible. Pour nous, au Septentrion, c'est très important de ne pas perdre de vue ce public-là. Donc, pour chaque manuscrit qu'on reçoit, on se demande à qui il va s'adresser. On s'assure aussi de toucher plusieurs générations. J'aimerais, vous raconter une anecdote qui est arrivée, la semaine dernière, lors du Salon du livre de Québec. Donc, c'est tout récent. Il y a un petit garçon de 12 ans qui vient me voir dans le kiosque du Septentrion et il prend dans ses mains un gros bouquin qu'on vient de publier de plus de 800 pages sur la guerre de 7 ans d'Edmond Dieboski. Donc, moi, je le regarde parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un petit garçon prendre un gros bouquin et tout ça. Donc, il est avec ses parents. Je lui pose des questions et tout. Puis là, il me dit tout gêné qu'il aimerait ça devenir historien dans le futur. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Donc, on a discuté pendant au moins une heure de ses intérêts et tout. Donc, ils prennent pas le livre tout de suite, mais ils reviennent une heure plus tard. Et là, il me demande tout timide si je veux bien lui dédicacer parce que c'est la première fois qu'il rencontre une historienne puis que ça l'a beaucoup touché, tout ça. Donc, lui, il veut vraiment aller en histoire. Donc, dans ma dédicace, je lui ai dit que j'espérais que le livre l'alimente dans sa carrière future, mais je lui disais surtout que cette génération-là qu'on venait de toucher, en fait, par l'objet livre, j'ai dit, ben ça, tu peux m'alimenter comme ça pendant encore au moins 20 ans, juste une rencontre comme celle-là. Donc, pour moi, le livre comme objet, l'essai, et un lien, en fait, entre les générations. Donc, c'est sur cette pensée-là que je voulais vous laisser aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sophie Imbeault. Maintenant, une femme à qui les historiens et les passionnés d'histoire doivent beaucoup, Micheline Lachance. Elle a été d'abord, elle a commencé, je pense, sa carrière comme journaliste. Elle a ensuite été chercher une maîtrise en histoire. Mais entre les deux, elle a publié des livres d'histoire, des livres d'histoire qui se voulaient des biographies, comme celle sur le cardinal Léger. Mais ensuite, elle a publié un livre très important qui a beaucoup marqué, qui a eu un énorme succès. C'est le roman de Julie Papineau, hein, en deux tomes. Et là, récidivé il y a un an ou deux déjà, sur la saga des Papineau. C'est une spécialiste du 19e siècle. Et par ce genre, elle a rendu compte de toute une époque à beaucoup de gens qui étaient très loin de l'histoire. Donc, bravo et merci pour ce travail qui se poursuit. Donc, je vous présente sa communication, qui est le roman au service de l'histoire. À vous, Micheline Lachance.
Bon, alors si vous me demandiez de vous recommander un excellent roman historique québécois, j'aurais envie de vous répondre « Kamouraska » d'Anne Hébert. Ça peut surprendre, personne n'a jamais qualifié ce roman d'historique et pourtant « Kamouraska » répond en tout point aux critères du genre. Bon, l'intrigue se passe dans les années 1830. Il s'inspire d'un crime ayant réellement eu lieu. L'histoire tourne autour d'une belle héroïne, Elisabeth Tassy, et le roman est écrit par une femme, comme c'est souvent le cas. Mais voilà, qui voudrait associer ce chef-d'œuvre à un genre littéraire aussi malmené? Pas de la part du grand public, qui en redemande toujours, preuve de son engouement pour l'histoire. Mais dans les milieux universitaires, on aime bien casser du sucre sur ce genre de roman. On n'ose plus aujourd'hui, bien sûr, les qualifier de harlequins de luxe ou de dire que leurs auteurs contaminent l'histoire avec des récits sentimentaux. N'empêche, ils inspirent toujours une certaine méfiance, même si plusieurs historiens respectables s'y adonnent, notamment Gérard Bouchard et Jean-Pierre Chartrand. Bon, nous ne sommes pas tous des émules de Gabriel Garcia Marquez et nous n'avons pas tous le souffle et le talent de Jonathan Little pour pondre 900 pages sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale vues du point de vue des bourreaux allemands. Et c'est vrai, il y a des romans historiques, il y en a des bons, des moins bons et des médiocres. Soit dit en passant, c'est vrai aussi de tous les genres littéraires. Mais certains romans historiques pêchent effectivement par manque d'authenticité. Ils se glissent parfois des erreurs et des anachronismes. Il y en a aussi dans les ouvrages historiques. Je pense que c'est Denis Vaugeois qui me disait un jour qu'on a relevé moult erreurs dans le célèbre dictionnaire biographique du Canada.
Oui, s'il vous plaît, si vous voulez, je le dis, si on peut fermer les cellulaires, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y.
Moi, ça ne me trouble pas outre mesure. Pourquoi? Parce qu'on ne trafique pas impunément la vérité. C'est le lecteur qui le juge. Lui, il veut une histoire vraie, et s'il flaire l'imposture, il vous lâche, tout simplement. Mais cela dit, le lecteur n'est pas un imbécile. Il sait qu'il lit un roman historique et non un essai historique. Il a compris que la guerre de sécession ne s'est pas déroulée exactement comme dans « Autant en emporte le vent ». Mais combien de lecteurs ont découvert justement les enjeux de cette guerre entre le Nord et le Sud en pleurant sur le sort de Scarlett O'Hara? À mon avis, c'est là le plus grand mérite du roman historique. Il donne au lecteur le goût de l'histoire. Il donne aussi envie d'en savoir plus. Et alors, ces mêmes lecteurs vont à la bibliothèque ou ils vont à la librairie se chercher des ouvrages pour en apprendre davantage, pour parfaire leur connaissance. Le succès du roman de Julie Papineau et ses retombées sont un bel exemple de ce que je veux dire. Au moment de l'apparition du livre, en 1995, Julie était une parfaite inconnue. Les rares historiens qui avaient mentionné son nom, là, je pense à Fernand Ouellet et Robert Humilly, ben, ils l'avaient dépeinte comme déprimée, déprimante, maladive, bigote, autrement dit, rien de bien intéressant. Après la sortie du livre, il y a eu une exposition « Julie Papineau et son temps » montée par le Musée de la civilisation de Québec. Les éditions Septentrion ont publié ses lettres, sa correspondance. Le manoir Papineau de Montebello a vu sa fréquentation croître. Il y a une agence touristique qui a lancé une visite guidée du Vieux-Montréal en compagnie de Julie. Il y a eu deux projets de films dont elle était l'héroïne. En fait, il manquait seulement les T-shirts à son effigie. En somme, le sentimentalisme qu'on reproche au roman historique, c'est justement ce qui fait son attrait auprès du public. Et ce n'est pas faire mentir l'histoire ou la contaminer que de s'y adonner. Après tout, l'histoire est aussi faite d'émotions et de sentiments, pas seulement d'idées. Oui, mais me direz-vous, jusqu'où l'auteur peut-il aller sans trahir la vérité historique? Y a-t-il des risques à jouer trop librement avec le passé? La question est d'autant plus pertinente que l'histoire et le roman sont deux disciplines fort différentes. L'histoire est une science, le roman un divertissement. L'historien recherche la vérité et interprète les faits du passé. Le romancier, lui, recherche le vraisemblable. Il veut divertir tout en faisant revivre le passé. Au risque de choquer, j'ai envie de dire que son chapeau de créateur lui donne tous les droits. Mais avec les droits viennent les responsabilités, dont celle de respecter la trame historique et les personnages ayant réellement existé. Pour ne pas trahir leur pensée, par exemple, il peut bâtir ses dialogues à partir de leur correspondance ou de leur discours. Il respecte la pensée. Si la fabule, comme l'a fait Dan Brown dans Da Vinci Code, là, en inventant une liaison entre Jésus et Marie-Madeleine. Alors là, le romancier a le devoir de le laisser savoir à ses lecteurs, que ce soit par une note de l'auteur à la fin du livre ou au début ou sur la quatrième de couverture. Mais pour le reste, le romancier procède exactement comme l'historien essayiste. Il effectue une recherche historique et archivistique fouillée. Il lit et compare tout, ouvrages savants, biographies, documents officiels, papiers de famille. Ensuite, il pose son regard sur le passé avec ses connaissances, son honnêteté et ses biais. Exactement comme l'historien qui interprète les faits historiques, qui avance des hypothèses, contredit d'autres chercheurs. L'historien et le romancier se posent la même question. Entre deux versions crédibles, laquelle vais-je retenir? Ben, si je raconte, par exemple, l'histoire de la rébellion à travers les yeux de Julie Papineau, c'est évident que je vais privilégier sa version à elle, donc la version patriote. ce qui ne m'empêche pas de soumettre l'autre vérité historique, c'est-à-dire celle des adversaires des patriotes, en mettant en scène des personnages dont les opinions diffèrent. Exemple, Papineau a-t-il fui à Saint-Denis? Bon, au hasard des scènes, je vais avancer le point de vue de la famille par le biais de Louis-Antoine Dessolles. Je lui oppose ensuite celui de Wilfred Nelson, son détracteur. C'est donc l'interaction entre l'histoire personnelle et l'histoire du peuple que j'essaie de reproduire. Bref, la petite histoire s'immisce dans la grande. Prenez mon roman « Lady Cartier ». J'ai presque envie de dire que c'est une chance si Georges Étienne, son mari, s'affichait ouvertement avec sa maîtresse tout en préparant la Confédération. Je dis ça parce que le roman a ceci de merveilleux qu'on peut faire alterner le mélodrame et les tractations menant à la Confédération canadienne de manière à rendre plus digestible un épisode politique, ma foi, assez rebutant pour le non-initié. Il y a rien, oui, je conclue, il y a rien comme un triangle amoureux pour fidéliser le lecteur. Pour conclure, je dirais que de tout temps, les romanciers ont joué avec l'histoire et cela a donné des œuvres inoubliable et historiquement crédible. Pensez à Notre-Dame de Paris, Guerre et paix, Mémoire d'Adrien, Cent ans de solitude. Et le romancier d'aujourd'hui se console en se rappelant que eux aussi, leurs contemporains, les ont étriés. Après la sortie des Misérables, Gustave Flaubert a dit de Victor Hugo qu'il avait résumé l'ensemble des idées banales de son époque. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Micheline Lachance. Maintenant, nous allons entendre Mélanie Lanouette, qui est historienne et qui est directrice du service de la recherche du Musée de la civilisation à Québec. Le titre de son exposé, Clio, dans les coulisses des musées, lieu incontournable de transmission de l'histoire. À vous la parole.
Alors, malheureusement, j'ai changé un peu ou l'orientation de ma communication, je ne parlerai pas tant de Clio, en fait, que de ses disciples, donc des historiens et de la place qu'ils occupent dans les musées, me disant, ben voilà, j'ai là dans l'assistance à la fois des historiens, des amateurs, des amoureux d'histoire. Donc, quelle place pour les historiens dans les musées? Je commencerai par une évidence. Les musées sont bien sûr de formidables lieux de diffusion de l'histoire. Les citoyens et citoyennes accordent aux musées une très grande importance et, bref, quand on va au musée, on accède à des contenus qui sont rigoureux, vérifiables, vérifiés. Donc, on fait beaucoup confiance au musée et donc, ce sont des institutions très crédibles. La plupart des musées ne disposent pas de l'expertise interne pour développer des projets d'exposition ou autres projets muséaux, donc font appel, bien entendu, à des comités scientifiques, à de l'expertise externe, des comités scientifiques bien souvent multidisciplinaires. En tout cas, au Musée de la civilisation, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Mais force est de constater que les historiens ont une large part dans ces partenariats. Donc, les historiens sont très présents au musée. Ce sont des partenaires de tous les instants et certains d'entre vous peuvent en témoigner puisque vous collaborez avec moi ou encore avec toutes sortes d'autres musées au Québec et dans le monde. Donc, c'est un fait, c'est une évidence. Je ne continuerai pas vraiment là-dessus. On pourrait parler peut-être longuement sur le rapport des historiens à la conception des expositions et qui pourrait nous rapprocher du propos d'Olivier, puisque dans cette relation, parfois, découle un certain nombre d'insatisfactions, mais je n'avais pas vraiment envie d'insister là-dessus puisqu'il me reste déjà à peu près 3 minutes. J'avais plutôt envie de vous parler, de provoquer un peu l'assistance en vous faisant part d'une réflexion que j'ai depuis que je suis arrivée au Musée de la civilisation il y a 7 ans. Je suis arrivée au Musée de la civilisation, j'avais aucune expérience en muséologie, j'étais une vraie historienne. D'ailleurs, je le suis encore et ça achale parfois mes collègues. On se refait pas, comme on dit. Et je réalisais que, au fond, les relations des historiens au musée se tissaient beaucoup à travers le pôle exposition, médiation, diffusion, communication de l'histoire. Or, les musées, ce sont bien autre chose. C'est aussi des collections, des réserves. Un musée sans collection, un musée sans patrimoine matériel, ce n'est pas un musée. Donc, il y a cet autre pôle et malheureusement, j'ai cherché longtemps dans les réserves pour trouver des historiens et je n'en ai pas trouvé. Ou ceux que j'ai trouvés, c'est ceux que j'avais invités. Et encore, ils entraient dans la réserve un peu sur le bout des pieds, se sentant plus ou moins légitimés d'y entrer. Donc, ils étaient très curieux, très intéressés, mais se sentaient pas légitimité à se saisir du matériau tridimensionnel dans le cadre et de l'intégrer dans un corpus. L'objet arrive bien souvent pour les historiens comme ce qui vient illustrer une publication. Donc, on est à quelques semaines de publier, on a la thèse, on a le livre. Ben voilà, on va aller chercher des objets pour l'illustrer. Donc, des objets qui ont un pouvoir évocateur d'illustration, mais des objets qui ne sont pas... Et c'est tout à fait normal. Mais par contre, j'arrivais un peu naïve. Malheureusement, je le suis encore. Mais pourquoi ne pas investir davantage les réserves? Je vais vous livrer une anecdote. Il y a quelques années, au musée, on organisait une séance de réflexion avec des chercheurs et des experts pour nous aider à redéfinir nos axes de collectionnement. Donc, j'étais avec mes collègues conservateurs et moi, encore une fois, toute naïvement, je me dis, mais il faut convoquer des historiens à cette rencontre. Mes collègues, très polis, de me dire... Ah, ça peut être une idée, mais qu'est-ce que les historiens ont à nous apprendre sur le patrimoine matériel? Ils n'ont pas développé de spécialité. Convoquons donc plutôt des anthropologues, des ethnologues, des historiens de l'art. Et moi, de dire, mais justement, allons chercher un autre point de vue. Et donc, l'historien serait peut-être pas en mesure de parler du matériau avec lequel l'objet a été produit, mais pourra le remettre en contexte. Et bref, c'est un regard supplémentaire, complémentaire pour nous aider. Alors, de bonne grâce, mes collègues ont accepté. J'étais toute nouvelle, alors ils voulaient pas trop me froisser. De l'autre côté, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'historienne à laquelle je pensais et, aux surprises, elle a eu exactement la même réaction. Mélanie, je te remercie de ton invitation, mais je n'ai absolument rien à vous dire de plus. Vous êtes les spécialistes du patrimoine matériel. Bon, là, rendu là, j'ai commencé à douter de mon idée en me disant j'ai peut-être raté ma vocation. Mais évidemment, là, j'avais le bras dans le tordeur. J'ai continué à la convaincre et finalement, elle a accepté de bonne grâce. Et finalement, ça a été une rencontre formidable. Je dis pas que d'autres ne le font pas, mais ce que je dis, c'est que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là qu'il y avait une frilosité à se rencontrer. Pourtant, quand on ose la rencontre, elle est extrêmement féconde, extrêmement intéressante. Et c'est dans cet esprit qu'on a conclu, il y a 2 ans, un partenariat, donc Musée de la civilisation, avec le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, pour lancer un programme de bourse, programme de recherche, 2e et 3e cycle, en milieu de pratique. Donc, cette bourse-là, elle est d'une valeur assez exceptionnelle. Elle est de 21 000 $ à la maîtrise et de 27 000 $ au doctorat. Donc, 3 ans au doctorat, 2 ans à la maîtrise. Donc, on offre une bourse par année, qu'elle soit de maîtrise ou de doctorat. La seule condition, c'est que l'étudiant ou l'étudiante devra étudier une composante de nos collections, que ça soit collection d'objets, archives, livres rares et anciens. Donc, on est assez fiers de ce programme. Malheureusement, on a des candidatures excellentes, mais on a encore très peu de candidatures. Ça s'explique de différentes manières. Une des raisons serait qu'en fait, on connaît très peu nos collections, mais aussi de cette frilosité aussi des historiens qui ne connaissent peu nos collections et qui manquent ou les professeurs peuvent ne pas pouvoir diriger leurs étudiants. Donc, je fais 30 secondes de publicité pour dire que le prochain appel à proposition sera lancé en mai. Donc, avis à tout le monde, aux étudiants, aux professeurs, il y a un appel de proposition pour cette bourse qui sera lancée au mois de mai. En conclusion, pour terminer, une question aux historiens, pourquoi ne pas investir davantage nos réserves? En fait, vous êtes l'artefact manquant dans nos réserves. Et je terminerai par un témoignage d'un historien français, Stéphane Audouin-Rouzeau, un historien spécialiste de la Grande Guerre et qui a témoigné en 2008 de son expérience à la fin des années 80 et début des années 90. Il avait participé à la création de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne. Donc, il est arrivé dans cette aventure de créer un musée comme un vrai historien qui avait été largement confronté à l'archive écrite, très peu aux objets. Et il a expliqué que cette confrontation à l'objet l'avait conduit même à de nouvelles interrogations sur son objet d'étude, la Grande Guerre. Permettez-moi de le citer. « Pour moi, l'Historial de Péronne est une expérience décisive dont je ne suis pas sortie. C'est le musée qui m'a appris la Grande Guerre, telle que je la ressens aujourd'hui, peut-être plus que les livres et les archives. Nous n'avons pas travaillé sur les documents écrits, mais sur des objets, des armes, des casques, de la vaisselle patriotique que nous manipulions. Il y avait une dimension tactile dans notre recherche qui n'avait rien à voir avec l'effort archivistique classique. Alors voilà, très naïvement, je vous lance, trouvons donc ensemble, historiens et muséologues, un terrain commun autour du questionnement patrimonial. Trouvons-nous une nouvelle planète à habiter ensemble. Merci.
Merci beaucoup, Mélanie Lanouette. Et maintenant, je vais céder la parole à Gilles Laporte. Gilles Laporte est professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. Il est actuellement le président du Mouvement national des Québécois, mais il est aussi un historien spécialiste, éminent spécialiste des patriotes. Il va publier sous peu une brève histoire des patriotes, encore une fois chez Septentrion. Décidément, c'est presque un publi-reportage que cette table ronde. Et donc, le titre de sa communication, « La diffusion de l'histoire à l'ère post-Gutenberg ».
Merci, Éric. Au terme d'un colloque palpitant mais exigeant, la dernière séance de la dernière journée, je n'ai pas le choix. C'est le pavé dans la mort ou rien. Je veux rassurer Éric, il n'aura pas à m'inviter à conclure parce que je venais faire guère faire que ça. On laisse 5 minutes et Google nous apprend que 5 minutes, un texte lu rapidement, se débite à un rythme de 200 mots minute. J'ai donc écrit 999 mots parce que je veux vous laisser le mot de la fin. Hérodote survivra-t-il à Gutenberg? En d'autres mots, la culture historique survivra-t-elle à la disparition progressive du livre comme principal vecteur de la connaissance? Or, la diffusion et la promotion de l'histoire du Québec, de qualité, dans l'optique de l'objectif de l'abbé Groulx, demeure notre objectif essentiel. On doit donc impérieusement se demander si cela continue à passer par la promotion du livre comme support de la connaissance. L'enjeu se pose en particulier à propos du grand public, où on retrouve, je vous le rappelle, 50% d'analphabètes fonctionnels, incapables même de comprendre une notice pour monter un meuble IKEA. Tenter de sauver le livre à titre de support de la connaissance est donc devenu téméraire. Il nous confinerait à devoir d'abord alphabétiser le Québec. Tous ici le savez, les livres se vendent de moins en moins et l'essor des livres virtuels est loin de compenser pour cette baisse. Cela concerne en particulier les ouvrages académiques dont les ventes diminuent annuellement de 8%. L'échec de la croisade du prix unique mène présentement à la suprématie des grandes surfaces, qui font de plus en plus cavalier seul, faisant ressembler les étalages des librairies à des marchés aux puces. Les nouveautés se succèdent à une vitesse folle. Une semaine, maximum 2 semaines sur les rayons des nouveautés. Loin derrière, les coffrets de séries télévisées et les paquets cadeaux, chocolats et autres produits saisonniers. Qui plus est, le rapport Godbout propose de taxer le livre pour mieux soutenir l'industrie. Soutenir l'industrie par des subventions, on imagine, afin de produire toujours plus de livres, de plus en plus chers et de moins en moins lus. Décidément, les partenaires de la chaîne du livre semblent devenus des adeptes de l'onanisme. En même temps, prétendre conserver au livre scientifique son rôle de sanctuaire de la connaissance éprouvée et falsifiable est de moins en moins fondé. Le livre ne bénéficie malheureusement plus du travail éditorial requis et surtout de la reconnaissance par les pairs. Tandis qu'il se publie toujours plus de livres au Québec, chacun est de moins en moins lu et critiqué. Des recensions assassines auront beau paraître dans le bulletin d'histoire politique ou dans la RAF, les mauvais livres continuent comme jamais à circuler. L'enseignement universitaire semble lui aussi emporté par la tourmente. Un article paru le mois dernier dans Atlantico a fait grand bruit, intitulé « L'université à la carte ». La formation universitaire devient une playlist. On y démontre un fait apparemment irréversible, soit qu'Internet entraîne présentement un fractionnement des diplômes et des formations universitaires, menant à la formation à la carte basée sur l'acquisition de micro-compétences créditées et interchangeables. Le mois dernier, avant la grève à l'UQAM, j'ai parcouru l'ensemble du campus, du pavillon Judith Jasmin jusqu'au Casse-Grain. J'y ai vu des dizaines d'étudiants assis un peu partout à la cafétéria. Une observation empirique m'a permis de constater que seuls 2 d'entre eux lisaient un recueil de textes de leur cours, un seul semblait lire un livre édité, tous les autres, sans exception, étaient devant un écran, leur téléphone ou leur laptop. Mes étudiants au cégep, qui doivent répondre à des questions dont toutes les réponses se trouvent pourtant dans leur manuel, décident massivement que tout simplement copier-coller mes questions dans Google. Quant à leur faire lire un livre en entier, il n'en est plus question. Que faire à notre échelle, et d'abord à la mienne, si vous me permettez? Je constate bien que la Fondation Lionel Groulx et l'Institut d'histoire américaine-française ou la Fédération Histoire Québec font un boulot extraordinaire, admirable, dans leur mission consistant à la promotion de l'histoire nationale. Les initiatives prises concernent cependant essentiellement les chercheurs et un public cultivé, plutôt âgé, dont dans la mouvance des lecteurs du devoir et de la tribu des historiens de la région de Montréal, qui lisent nos livres et les commentent. Merci. Trois clientèles, cependant, nous échappent de manière récurrente. Bien sûr, les jeunes, les étudiants et, de manière générale, les adeptes des nouveaux médias. Je compte proposer à la Fondation que la Fondation Lionel Groulx parraine la création de capsules vidéo d'une minute, disponibles sur le web et sur les téléphones, et portant chacune sur un aspect de l'histoire du Québec. Construit autour de mots-clés qui piquent la curiosité, ces capsules devraient être destinées à faire partie, non pas d'un programme de lecture, mais surtout sortir au hasard au terme de requêtes Google. Pour l'instant, il sort le pire et le meilleur lorsqu'on pose des questions sur Google. Assurons-nous d'une présence d'un produit de qualité. Je pense à des choses comme le fer à une scène la tonne en une minute, les culottes à Vautrin en une minute, par la bouche de mes canons en une minute, la nuit des longs couteaux en une minute, les Donalda en une minute, désormais en une minute. Notre État français, nous l'aurons en une minute. Il existe bien sûr quantité de vidéos sur l'histoire, et on a parlé tantôt d'une histoire populaire du Canada, mais ils sont trop longs, jugés par mes étudiants, trop longs, trop pédagogiques, plats, lents et poussifs. On a aussi quantité de conférences filmées d'historiens, d'Henri Guillemin à Jacques Lacourcière. Mais il demeure trop professoral et calqué sur le modèle du bon vieux cours magistral. Ce que je me propose mise sur l'efficacité, la brièveté et pourquoi pas l'humour. Un humour voltairien, pince sans rire. Un peu comme ce qu'a développé le camarade Jean-Claude Germain, mais sur un mode captivant, rythmé et ciblé. Quant à l'apparence visuelle, il s'agirait simplement de produire de petites animations image par image à partir d'illustrations historiques à la portée de n'importe quel infographiste. Un clip d'une minute, c'est 200 mots. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. De telles capsules tablant à la fois sur la rigueur, la brièveté et l'humour représentent tout un défi d'écriture. Il faudrait donc poser un cadre éditorial très serré autour d'une équipe d'auteurs parfaitement coordonnée. Je pense en particulier à ces fabuleux enseignants de niveau secondaire et collégial qui, partout depuis des années, ont développé des prodiges de créativité conciliant rigueur mais aussi efficacité pédagogique. Ils devraient être davantage mis à contribution pour ne sortir leurs meilleures perles. Ça peut aussi accessoirement prendre la forme d'un livre. Tout compte fait, malgré son déclin, le livre demeure un modèle économique et surtout familier aux historiens. Ces capsules sont néanmoins d'abord destinées à être lues et à être diffusées comme telles. En y ajoutant un jingle musical, ça peut aisément devenir des clips radio qu'on pourra passer chez nos amis de Radio Ville-Marie, CIBL, Radio Centre-Ville et pourquoi pas un jour une station commerciale. On produit enfin des clips pour Internet, qu'il s'agit simplement d'ajouter des images, rien encore là de bien coûteux. L'objectif aura dès lors été atteint. Soit produire des clips qui pourront rejoindre les deux clientèles qui nous font défaut, le grand public et en particulier les jeunes versés dans les nouvelles technologies. Notamment ceux qui suivent des cours d'histoire et qui cherchent un complément accessible et ludique à leur formation. Que les intéressés se le tiennent pour dit. Chose certaine que mon éditeur adoré aussi se le tienne pour dit. Hérodote doit survivre à Gutenberg, quitte à trouver refuge dans le cybermonde.
Alors, merci beaucoup. Alors, je vous avais dit qu'on passait tout de suite aux questions, mais en effet, c'est pas tout à fait le cas. D'abord, qu'il y ait des interactions, on va d'abord écouter, on va demander à Denis Vaugeois de nous ramasser, de conclure. Donc, merci de prendre place à la tribune qui est là. Pendant qu'il se déplace vers nous, Denis Vaugeois, qui peut-être se passe de présentation, mais quand même, Je vous rappelle que Denis Vaugeois a été enseignant au départ. Il a été enseignant, formé par Maurice Séguin à l'Université de Montréal, passé par le moule de l'École de Montréal. Il est devenu enseignant. Il a été ensuite conseiller au ministère de l'Éducation du Québec durant les années 60. Il a par la suite créé les éditions du Boréal Express, ou un peu avant, il a créé les éditions du Boréal Express avec son ami alter ego Jacques Lacourcière. Et par la suite, il a lancé, après avoir été député, ministre, et je vous en passe, il a lancé les éditions du Septentrion. Et il poursuit, en même temps qu'il fait tout ça, il a poursuivi une œuvre d'historien très impressionnante. Donc, Monsieur Vaugeois, à vous la parole.
Heureusement, j'ai manqué un peu ce que tu disais sur moi. Il peut recommencer, oui. Écoutez, j'ai des notes de préparer. Parce que j'ai compris que j'étais supposé de ramasser tout ce qui avait été dit, de faire la synthèse de tout ça, puis de signaler ce qui était très positif. Mais si j'avais un autre texte, là, je suis frustré un peu, je pourrais pas donner mes notes. Mais je vais concilier les deux. D'abord, je passe 7 minutes, moi, là. C'est pas possible avec moi, 7 minutes ou 10 minutes. Je trouve que les gens étaient très, très disciplinés. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est dit. Je pense que je vais avouer que je suis arrivé ici avec des certitudes. Bon, je les ai encore un peu, mais elles ont été ébranlées. Elles ont été ébranlées. Surtout Gilles, à la fin, là, franchement, t'as tiré dans les jambes, hein. Quand tu décris la scène à l'université, puis malheureusement, c'est peut-être un petit peu, ben, malheureusement, tu l'as vu. Mais t'es peut-être allé une mauvaise journée. Mais là-dessus, je dois dire que je fréquente beaucoup, beaucoup la bibliothèque de l'Université Laval, qui autrefois était une excellente bibliothèque. Maintenant, il y a eu de l'élagage. Alors, il y a des belles tables, il y a des beaux espaces, mais il y a moins de livres. Il y a encore des étudiants qui empruntent des livres, puis encore des étudiants qui partent avec plein de livres, puis encore, je pense que ça fonctionne encore un petit peu. Il reste que un des problèmes, quelqu'un l'a dit, c'est un des problèmes de l'édition, puis c'est toi, je pense, Gilles, qui l'a mentionné vers la fin. Bon, puis ça, c'est toujours embêtant de dire ça, mais je crois qu'un des problèmes, c'est que c'est devenu trop facile de s'éditer ou d'être édité. Quand vous avez parlé de Frégo, quelqu'un a parlé de Frégo. Frégo, Marcel Trudel et les autres, ils s'éditaient à compte d'auteur. Ça a pris du temps que M. Frégo ait un éditeur, puis je suis pas sûr même qu'il contribuait pas. Mais le premier livre de Frégo, c'était sur Pascal. Et alors, ces gens-là, qui sont nos précurseurs, donc avaient des difficultés à se faire éditer. Aujourd'hui, c'est l'avalanche. C'est l'avalanche. Vous avez fait allusion à Maurice Séguin, mon formateur. Il y en a eu plusieurs formateurs. Donc, là, vous avez réduit ça à Maurice Séguin, puis vous m'obligez presque à renier Maurice Séguin. Moi, j'ai un doctorat de l'Université Laval, oubliez pas ça. Hein. je dirais pas lequel. Bon, alors, disons que sur ce plan-là, Maurice Séguin, son premier livre, le premier, en fait, je me souviens même pas des tirages cumulatifs. C'était Genèse historique, l'idée d'indépendance. D'abord, il avait été publié par la revue Laurency. Il y avait un bon tirage. On l'avait repris sous une autre forme. Je suis certain qu'on a tiré au moins à 3000 et je suis certain qu'on a réimprimé. La Nation canadienne, je suis certain, c'est facile, c'était toujours 3000, le tirage à l'époque. Et aujourd'hui, s'il en reste un ou deux exemplaires au bureau, c'est parce qu'on veut pas les laisser partir. Donc, 3000, c'était la norme. Aujourd'hui, le même genre de livre, puis ça, je donne pas le point de vue de Septentrion, je vais prendre une grande maison, comme Boréal, mettons. Dernière fois, j'ai discuté avec Pascal. Peut-être qu'il voudrait pas que je dise ça publiquement, mais ici, on est entre nous, là. Il dit, ça tourne autour de 800. Et quand on se rend à 1000, on est content, puis à 1200, c'est un succès. On est en histoire. Tu confirmes ça, Sophie? Hein? On en est là. Mais pour autant, on trouve que c'est, dans le contexte actuel, on est content. On est content et on sait que le livre, il voyage de diverses façons. Par exemple, tous nos livres sont disponibles en numérique. Qu'est-ce qui arrive avec une de nos versions numériques? On ne saura bien jamais. Parce que malgré les précautions qui sont prises, ce livre-là peut faire des petits souvent. Après ça, il y a le phénomène des bibliothèques. Écoutez, quand on a commencé à exister, il n'y avait pas de bibliothèque publique. Comprenez-vous, là? À Québec, il y avait l'Institut canadien, qui avait été oublié dans Québec, donc on l'avait pas fermé. Et puis, il y avait à Sainte-Foy, où il y avait une bibliothèque publique. C'était tout. Et à Montréal, quand je suis arrivé aux affaires culturelles, il y avait la bibliothèque centrale, sur la rue Sherbrooke. Il y avait 3-4 dépôts de livres dans Montréal. Et pour trouver une bibliothèque publique, il fallait aller chez les Anglais. Aujourd'hui, il y a les maisons de la culture un peu partout. Il y a un réseau de bibliothèques qui est absolument fantastique. Il y a la bibliothèque centrale de près. Mais c'est clair qu'il y a des livres là-dedans, puis ces livres-là circulent. Et combien de fois je discute d'un bouquin avec quelqu'un, je sens que l'intérêt est là. Mais j'ai compris que cette personne-là allait l'emprunter à la bibliothèque. Alors, je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi. Donc, on en vend peut-être moins, mais les livres circulent peut-être tout autant. Mais à côté de ça, il y a quand même une édition trop importante. Et en termes de quantité. Et quand on les gens disent « Ah ben oui, c'est vrai, je pense que tu as raison. » Puis j'ose pas nommer d'éditeurs qui en font trop parce que... Mais alors la question c'est, s'il y en a trop, lesquels sont en trop? Alors là, t'es vraiment embêté. Là, lesquels sont en trop? Puis finalement, d'ailleurs, ceux qu'on aurait jugé être en trop au début peuvent s'avérer être des livres qui ont une longue carrière et qui deviennent très importants. Des livres qui avaient l'air rébarbatifs au début, tout d'un coup, on en découvre les mérites. Et puis, en tout cas, moi, je suis pas découragé du tout de ce côté-là. Et je pense que l'avenir est au livre imprimé. L'autre, on pourrait en reparler, ça serait un autre débat. Faut que je fasse un aveu. Quand j'entendais parler tout à l'heure sur la muséologie, il m'est venu tellement d'idées à l'esprit que je vais regarder les principales ou le plus grand nombre. Mais, je suis responsable beaucoup de la politique des musées, comme celle des bibliothèques, et quand j'ai commencé, j'avais fait venir René Milot, qui avait travaillé à Paris, au Musée des arts et traditions populaires, puis il était allé à Pompidou aussi, donc j'avais de l'information, puis j'avais été en contact avec ces gens-là, et puis, quand on a décidé de faire des musées, on s'est dit, il faut aussi avoir des cours de muséologie. Alors, bon, des cours de muséologie, c'est beau. Alors, moi, tout de suite, sûr de mon coup, je débarque au département d'histoire de l'Université Laval. Non. On ne forme pas des gens ici pour aller en musée. Ils n'ont pas voulu. On n'a pas voulu entendre parler de mes cours de muséologie au département d'histoire de l'Université Laval. Et c'est finalement les historiens de l'art qui l'ont récupéré et qui l'ont développé, puis qui l'ont quasiment verrouillé pour que les historiens tout court, n'y trouve pas d'intérêt. Là, est-ce que je deviens trop long, Éric, là?
Si c'est un préambule, oui.
t'es dur. Moi, je suis venu de Québec de nuit.
Quelqu'un je suis arrivé ici,
j'ai pris
un pain.
J'ai pris le sandwich d'un autre. Bon, attends un peu pour toi. Parce qu'après ça, je vais raconter ce que je voulais raconter. Hein. De toutes les interventions que j'ai entendues et que j'ai trouvées admirables, il y en a une qui résume pour l'essentiel ce que j'aurais pu dire, c'est Catherine Ferland. Je pense que Catherine, elle était très juste, puis d'autant plus qu'elle vit cette réalité, parce qu'il y en a d'autres qui ont des emplois. Tu sais, Olivier, il n'y a pas de mérite. Madame Lanouette, vous n'avez pas de mérite. Yves, tu n'as que des mérites. Micheline, avec tous les succès qui lui donnent, tombe dessus. Elle, ça serait une très bonne candidate pour mon propos d'aujourd'hui. Gilles a un poste. Alors, est-ce que je peux revenir à ce que je devais traiter aujourd'hui? Considérant que ce qui allait être dit par les panélistes, qui sont d'un très haut niveau, puis ils ont été très intéressants, moi, j'ai essayé de définir mon intervention, puis là, ça va être plutôt raisonnable, plutôt court. Je m'étais dit, qu'est-ce que je dois définir? Alors, j'ai appelé ça l'historien entrepreneur, ou l'historien pigiste. Tu peux être un historien qui a un emploi. Gilles, a un emploi. Éric a un emploi. Donc, a priori, il rentre pas dans ma catégorie. Mais il arrive qu'on peut avoir un emploi, puis en même temps, être un deuxième individu. Et se comporter un peu comme un pigiste, et accepter des mandats, accepter de relever des défis, etc. Donc là, c'est moins important ce que je vais dire, mais il reste que dans les deux cas, l'historien peut être à la fois institutionnel, puis peut devenir un entrepreneur. Je vais référer à mon expérience personnelle. Quand on a lancé le journal Boréal, on a lancé, par défaut, personne ne voulait nous éditer, on a eu du succès. Qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu se changer d'auto, et ainsi de suite, mais on a fait des placements. On a investi. Et on a développé une maison d'édition qui, pendant toute son existence, n'a jamais eu de problème financier. Pas parce qu'on accumulait les succès. En fait, on en avait des bons. Quand j'ai dit Claude Morin ou Marc Laurendeau ou Jean Provencher, on a des succès. Mais en plus, on fait attention à l'argent qui rentre. Et on le place. On fait des placements. On l'avait pas prêt à l'université, ça, par exemple. Mais M. Tessier, elle, peut-être, avait des bonnes notions là-dessus. Quand je quitte la politique, là, je me fais laver. OK? Je n'ai pas été un très, très habile politicien, mais en tout cas, il reste que je me suis fait laver. Puis quand je suis sorti de la politique, là, il fallait que je me reconstruise à tout point de vue. Là, j'ai misé sur quelque chose qui était mon jardin secret, mes secrets. J'ai misé sur l'immobilier. Là, je me suis refait, et ça a permis au Septentrion d'exister pendant 25 ans. Pas avec les succès de nos livres, là, trompons-nous pas. Plusieurs livres marchent bien. La Coursière, c'est toujours un miracle, mais il reste quand même que si on a tenu, c'est parce qu'il y a eu des efforts financiers, puis il y a eu l'effort d'utiliser au maximum l'argent qu'on réussissait à faire ailleurs. La même chose quand tu as un bon poste, puis que tu as un bon salaire. À mon avis, tu peux avoir un petit volet entrepreneur, puis décider, grâce à ce bon salaire que tu as, en parallèle, puis le bon salaire, c'est pas nécessairement dans l'enseignement d'histoire. Quand j'étais au CEC, j'ai engagé des gens et je les ai mis à l'entrepôt. Des gens là, qui étaient frustrés, qui voulaient faire des choses, qui étaient des créateurs ou des historiens. J'ai dit, j'ai une job pour toi à l'entrepôt. Hey, il était insulté. Il s'en allait dans une maison d'édition pour y faire des livres, puis je leur proposais l'entrepôt. Mais je dis, oublie pas qu'à l'entrepôt, là, voici les semaines de travail. À 4 heures, t'es rendu chez vous. T'as pas de soucis, comprends-tu? Là, tu peux commencer une deuxième vie. T'as des périodes de vacances, on a un syndicat ici. T'as des périodes de vacances, ça n'en finit plus. Tu peux avoir une deuxième vie. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens qui le font. Mais le fait d'avoir un bon emploi et pas nécessairement en histoire peuvent leur permettre de faire en parallèle une très belle carrière puis d'être disponible pour plein de choses. Alors, je reviens aux notes que j'avais pris ici. Catherine l'a dit, mais je reviendrai pas là-dessus, mais sur apprendre à raconter. Une petite anecdote. Première fois que j'ai laissé Gélermand parler en public, parce que Gilles était très bon en informatique et tout, puis je me doutais pas de certains aspects de sa personnalité. Donc, un bonjour, il a travaillé sur un livre, je lui laisse la parole dans le lancement. Il est très bon. Après, je dis, Gilles, c'est extraordinaire, tu parles en public. Il dit, dans notre cours à l'université, en Belgique, c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de prendre la parole, puis les examens sont comme ci, comme ça. Alors, j'ai retenu ce que tu as dit très bien, Catherine, c'est que ça, et Lucien m'a dit, on le fait à l'université à Trois-Rivières. Mais vous le ferez jamais trop, en tout cas. Parce que dans presque toutes les facettes qui se proposent à un historien, s'il y a un problème de communication, écoutez, il y a des fois, on me demande d'aller parler d'un livre que je connais à peine. On dit, écoute, l'auteur est pas capable d'en parler. Et à la radio, la recherchiste dit à son animateur, surtout pas cet invité-là, il paralyse devant un micro. Et ça arrive plus souvent que vous pensez. Donc, apprendre à raconter. Il y a une chose aussi qui va vous paraître banale, parce que surtout quand on parle de Google, mais il y a apprendre à trouver rapidement. Ça a l'air de rien. On pense qu'avec Google, on trouve tout de suite. C'est pas vrai. Il y a des affaires, on trouve jamais, parce qu'on s'est pas posé les bonnes questions. J'avais un souvenir aussi là d'École normale. À l'École normale, il y avait les Olympiades, puis moi, je participais aux Olympiades, j'adorais ça, mais j'avais quand même parti les Olympiades de l'esprit. Et j'ai amené mes jeunes à la bibliothèque, puis je leur disais, voici des questions, vous avez l'après-midi pour trouver les réponses. Au bout de 20 minutes, il y en a qui me revenaient découragés, mais monsieur, il n'y a pas de livre sur ce sujet-là. Hein? Alors, c'était pour eux autres le drame. Si vous êtes pigiste, au sens large, que vous ayez un emploi ou pas, quand on vous propose quelque chose, hésitez très longtemps avant de dire non. Parce que si vous dites non, on vous oublie. Le professeur universitaire, lui, il dit régulièrement non. Comme tu l'as dit encore là, Catherine, nuit à sa zone de confort. Si tu sors de son siècle, ou de sa fin de siècle, ou même de son côté de rue, il va dire non. Comprends-tu? Tandis que toi, si tu es entrepreneur, pigiste, tu dis toujours oui. Il est 10 heures le matin, la question est dans l'actualité. On devient une entrevue vers 4 heures l'après-midi, quand les gens sortent des bureaux. Ben écoute, entre 10 heures le matin et 4 heures l'après-midi, tu es capable de devenir un spécialiste qui va résumer une question en 3 minutes. En tout cas, si vous ne saviez pas, la Coursière et moi, et Provencher, on le fait régulièrement. Un pigiste entrepreneur apprend à gérer son temps, apprend à gérer ses affaires. J'avais presque envie de vous dire la différence entre un rire et un CELI. Mais des fois, là, je vois des gens qui partent avec de l'argent Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? J'en aurais tellement d'anecdotes là-dessus. Mais la dernière, elle est incroyable, hein, d'un très bon auteur, spécialiste des Autochtones, qui a eu de très gros contrats pour des procès. Et là, dernièrement, les procès sont terminés, il n'y a plus de contrat. Alors, il vient nous voir, puis il voudrait des projets. Puis on est intéressé, il est très bon. Alors, il parle avec Gilles, puis là, Gilles se force pour énoncer des projets, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent qui vient avec chaque projet. Puis nous, des avances, on n'en fait pas beaucoup. Alors, le type est là, puis il écoute les propositions de Gilles, puis il regarde les montants qui sont attachés, puis il dit à Gilles, il dit, t'as rendu compte, Gilles? Il dit, moi, ces dernières années, j'ai fait des années de 200 000. Écoutez, on peut plus rien faire avec un gars comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait avec son 200 000? C'est catastrophique. Ou en tout cas, écoutez, Là, tout ça pour conclure que... deux petites choses pour finir. On a des mauvaises habitudes en histoire. On sous-évalue nos contributions. On déprécie nos contributions. J'en ai parlé ça avec Eric il y a quelques jours. Moi, pendant à peu près toute ma vie, puis j'en ai fait des conférences, j'avais jamais eu l'audace de charger quelque chose. Quand on m'offrait mon déplacement, pourquoi pas? Mais ça allait jamais plus loin que ça. Un jour, je me suis fait engueuler par un nommé Chapu, qui donne plein de conférences. On était au même endroit. Alors, il me dit, au moment du lunch, il dit, comment tu charges, toi, pour des conférences? Ben, ce que je vaux. Il dit, moi, c'est, puis il me dit, 3 000 $. Alors, c'était trop, là. J'étais plus capable de me recycler. Mais récemment, l'autre jour, j'ai du courage. Je me trouve admirable. J'ai dit à la madame, elle m'a annoncé un gros public de 250. Bon. Ben, je dis, madame, elle s'informait, combien je coûte. D'habitude, je dis, rien. Alors là, je dis, écoutez, là. Je dis, ben, 500. Ah, ben, c'est parfait. Là, je dis, quand je pense à toute ma vie. Alors, je termine sur la question de l'informatique. L'informatique, en un sens, c'est celui qui peut nous tuer. Pas parce que c'est un moyen qui a plus d'avantages ou tout ce que vous voulez, c'est que ça coûte tellement cher. Tellement cher. Nous, on voudrait en faire des vrais livres numériques. Mais quand on s'informe auprès des gens qui pourraient en faire combien ils coûtent, ils sont habitués de facturer pour des jeux vidéo. Alors, des livres numériques, là, faut les faire nous autres mêmes, comme ils existent, c'est-à-dire une version numérique d'un livre papier. Et ça mène pas loin. D'ailleurs, on le voit bien, on n'en vend pas. On en a à peu près 500 ou 600 numériques sur notre site. Écoute, on n'en vend pas. Quand tu demandes aux gens, avez-vous l'intention d'acheter un livre numérique? La BTLF a posé la question. 75% des gens ont dit, non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas l'intention. Et dans ceux qui n'ont pas répondu, on n'a pas l'intention. Les autres 25%, c'est pas ceux qui vont acheter grand chose. Il n'y en a pas de vente là-dedans. Parce que c'est pas un vrai livre numérique. Et pour en faire des vrais, ça coûterait pour l'instant une fortune. Et faites bien attention. Avec tout ce qui s'en vient, là, on va vous annoncer de l'argent. Mais c'est de l'argent qu'on veut vers le numérique. Alors, vraiment, il y a des lobbies actuellement qui ont des appareils à vendre et qui ont des systèmes à vendre, puis c'est des programmes qui sont fermés. Et ça, il y a un argent, d'ailleurs, dans les commissions scolaires, il y a un argent fou qui passe là-dedans. Je pense qu'il va falloir se réveiller, mais il y a un lobby puissant, puis il faut être conscient qu'il joue pas en notre faveur. Excuse-moi, Éric. Hein?
Non, ça va. C'était très intéressant.
Merci.
C'est terminé. Merci beaucoup, Denis Vaujoie. Oui. Alors, merci à tous et à toutes. Maintenant, si vous avez des interventions, des questions, nous avons quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, pour lancer donc des échanges. Alors, Monsieur Graveline, on vous écoute.
Oui, moi, ce qui... Je vais réagir à ce que Gilles Laporte a dit. Et je lui ai déjà dit, d'ailleurs, que je trouvais son projet très intéressant. Cependant, moi, ce que je retiens de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de diffuser l'histoire. Il y a diverses façons. Et je crois qu'il faut toutes les utiliser, pas un ou l'autre. Quand on a un projet de diffusion d'histoire, je vais donner un exemple très concret, un projet qu'on a mené à la Fondation Lionel Groulx qui s'intitule « 10 journées qui ont fait le Québec ». Ça a d'abord été une série de 10 conférences qui ont fait Salcombe à la Grande Bibliothèque. Ça a été ensuite une série d'émissions télé diffusées à ma TV, reprise ensuite sur les portails de BNQ, d'Illico, de la Fondation Lionel Groulx, et qu'on a mis en ligne, d'ailleurs, dans tous les sites de partage de vidéos. Vous le trouvez sur YouTube. On a proposé aux enseignants d'utiliser ça comme matériel pédagogique, et il y en a qui le font, qui téléchargent ces conférences-là et qui les diffusent dans leurs cours. Ça a aussi donné lieu à la publication d'un livre, d'un beau livre, qui s'est vendu à 5000 exemplaires. Ça a aussi donné lieu à une série de 10 chroniques d'une pleine page dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. En d'autres mots, par divers moyens, on a fait connaître ces 10 journées qui ont fait le Québec. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser la diffusion de l'histoire de plus en plus. Et compte tenu de la petitesse de nos moyens à chacun, développer des partenariats pour faire en sorte que la diffusion de l'histoire grandisse de toutes les façons possibles, par tous les moyens possibles. Je vais revenir sur la question d'Internet et du Web. Écoutez, il y a une vérité, là. Il y a une enquête qui a été faite il y a 2 ans qui démontre que plus autour de 85 % des jeunes, dont on parle des groupes 15-34 ans, vont, et donc particulièrement les étudiants, ils vont chercher leurs informations maintenant sur Internet. Ils vont pas dans les bibliothèques, ils ne lisent pas les journaux, ils écoutent peu la télévision. Ils vont chercher leurs informations sur Internet et plus particulièrement sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Alors nous, on a entrepris à la Fondation un effort dans ce sens-là. On trouve qu'il faut créer sur Wikipédia un portail Histoire Québec. Il faut s'assurer que les contenus qui portent sur l'histoire du Québec dans Wikipédia sont des contenus de qualité. Et on y travaille. Et je pense qu'il va tous falloir investir ce champ-là. On a entrepris de former avec l'équipe de Wikimedia Canada et la BNQ. On a des sessions de formation qui s'appellent les Wikimardi à la Grande Bibliothèque pour former des gens qui sont intéressés à l'histoire, à cet outil qui est l'encyclopédie en ligne, Wikipédia. On a entrepris, même Gilles le sait, on est allé, notre chargé de projet numérique est allé dans son cours à l'université pour expliquer à ses étudiants comment ça fonctionne, comment on peut contribuer à cette encyclopédie-là. Ça doit vraiment devenir un élément majeur de la diffusion de l'histoire. On prépare, ça peut prendre toutes sortes de formes. On prépare pour le 375e anniversaire de Montréal, on a proposé un projet avec l'appui de la Société de transport de Montréal et de la Société historique de Montréal, pour que, vous savez, sur les 68 stations de métro qu'il y a à Montréal, 28 portent le nom de personnages importants de l'histoire du Québec. Aucune identification dans le métro. On ne sait pas qui sont ces gens-là. Il n'y a pas de plaque commémorative, il n'y a aucune information. Alors, nous, on propose d'installer des plaques commémoratives avec des codes QR qui vont permettre aux gens, avec leur téléphone intelligent ou leur tablette, de pouvoir non seulement lire les quelques lignes qu'il va avoir sur les plaques, mais avoir accès à la page Wikipédia qui porte sur ce personnage historique. Évidemment, il va falloir s'assurer que la qualité du contenu. Alors, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut aller investir tous les champs de diffusion et mettre en commun nos ressources.
Merci beaucoup, Pierre Graveline. Une intervention, est-ce que oui? Merci.
Tout à fait d'accord avec vous. C'est gratuité de réalisation pour gratuité de consultation. Mais la majorité des praticiens, on est des contractuels. Comment concilier la chose?
Donc, c'est une question qui nous est tous adressée. Monsieur Laperrière.
Je profite du fait que je passe après Monsieur Graveline pour le remercier, ainsi que l'Institut, la Fondation, pour ce colloque. On arrive vers la fin, puis vraiment, moi, j'ai été ébloui du début à la fin. Je remercie beaucoup les conférenciers d'aujourd'hui. Je suis presque obligé de remercier M. Graveline aussi d'avoir dit tout ce que je voulais dire avant que j'arrive au micro, parce que je voulais m'adresser à M. Laporte, lui dire que Moi, je suis à Montréal depuis assez récemment. J'ai pas fréquenté les couloirs de l'UQAM, j'ai peur. Mais je fréquente régulièrement la Grande Bibliothèque. C'est plein, plein, plein de monde. Je dois dire cependant que ce qui est le plus occupé, c'est les ordinateurs à la Grande Bibliothèque. Mais cela étant dit, je pense qu'effectivement, j'ai été... En vous entendant parler, c'est à Monsieur Laporte que je m'adressais, en vous entendant parler, j'étais surpris justement que vous ne parliez pas de Wikipédia. Parce que moi, je lis beaucoup, j'ai même écrit des livres, mais j'avoue que, comme peut-être certains autres ici, je suis pas capable de comprendre les instructions d'IKEA, dont vous avez parlé tantôt. Et alors, je trouvais que Wikipédia, par contre, très souvent, on se pose des questions. Ah, on va aller sur Wikipédia, on a la réponse. Et je vais vous donner un exemple patent de quelqu'un célèbre ici. J'ai eu à présenter l'autre jour M. Vaugeois, une célébrité bien connue, et j'ai été sur Wikipédia, il y avait là un magnifique site sur Denis Vaugeois. Il m'a dit après, j'ai fait faire ça par un assistant qui a fait ça merveilleusement. J'ai été ensuite voir Jacques Lacourcière, c'était minable. Alors, c'est pour vous dire que, selon les sujets qu'on consulte, je m'excuse, Mme Imbeau, peut-être ça a été corrigé depuis, c'est vous qui l'avez fait?
Je veux juste dire que la page de sur M. Vaugeois, c'est nous, au Septentrion, qui l'avons
complétée. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit ça, il m'a bien dit que c'était pas lui, que c'était vous. Mais c'est bien fait. Mais si vous avez des loisirs, complétez aussi celle de M. Lacourcière, qui vous a quand même valu quelques dollars. Alors... Cela étant dit, justement, je pense que c'est un médium, parce que souvent on va là, c'est là qu'on trouve les réponses à bien des questions. C'est vrai, comme disait M. Vaugeois, qu'il y a des réponses qu'on ne trouve pas, mais il y en a beaucoup qu'on trouve, et je pense que ce qu'a dit M. Gravelin tout à l'heure est très, très encourageant. En faisant et en initiant plusieurs historiens à se mettre à ce moyen-là, on réussit. Moi, je me souviens, les premières fois que c'est sorti, j'avais une collègue, moi, je la vois encore me dire, elle faisait des exercices en classe pour démontrer aux étudiants à quel point on trouvait des faussetés sur Wikimedia à comparer à l'Encyclopédie Britannica ou je ne sais quoi. C'est peut-être vrai, mais il n'en tient qu'à nous qu'à l'améliorer. Alors, je pense que c'est un moyen d'avenir.
Très bien. Merci beaucoup. Madame?
Je voulais juste dire que Jacques Lacourcière est quand même le père de la vulgarisation en histoire au Québec. Nous, c'était un grand modèle. Puis quand j'entends que son site est minable, je trouve ça un peu triste. Je l'ai vu récemment. Jacques, c'est sûr qu'il ne réjeunit pas. Il déménage bientôt. Et j'ai même constaté que Jacques n'a même pas de fonds d'archives. Et j'en ai fait part aux gens des Archives nationales. Ça n'a pas de bon sens. Et il va déménager. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de matières qui disparaissent.
Monsieur Laperrière parlait, je pense, de l'entrée Wikipédia. C'est ça, hein?
Oui, donc, même là.
C'est vrai, absolument.
Même là.
Alors, un autre travail pour les éditions Septentrion, de mettre à jour l'entrée sur Jacques Lacourcière. Madame,
mais
vous
c'est pas une
oui.
blague, Éric. On y pense au Septentrion parce que j'ai travaillé sur la guerre de 7 ans, la guerre de la conquête. Et vous irez voir la page sur Wikipédia, c'est lamentable là, ce qu'on y trouve. Donc là, il faut mettre du temps au Septentrion, là-dessus, pour référencer nos ouvrages, hein, parce que Wikipédia, oui, on fait du travail bénévole pour l'alimenter, sauf que c'est la première référence souvent qui sort quand on tape un mot-clé dans Google. Donc, c'est ça qui va nous amener aussi à vendre des livres. Donc, oui, c'est un souci qu'on a de compléter ces pages Wikipédia.
Oui. Madame, on vous écoute.
Alors, Marie-France Charrette, la Fédération Histoire Québec. Je voulais parler des deux moyens que nous, on utilise pour justement diffuser, c'est-à-dire les éditions Histoire Québec. Je vois que vous avez devant vous le livre de M. Fournier. La maison d'édition a été mise sur pied il y a déjà 12 ans. C'était au départ pour aider les sociétés à publier, à diffuser leur publication. Et en même temps, il y a un retour, évidemment, il y a des dividendes, des redevances sur les ventes de livres et tout ça, c'est un moyen de financement pour eux aussi. Et ça a évolué vers la collection de la fédération où est-ce que là on endosse certains auteurs et on ne participe pas à la production des livres mais on les diffuse, on est au Salon du livre de Montréal et on les amène partout où va la fédération. C'est sûr que le contexte de la fédération nous donne des possibilités qu'un éditeur conventionnel a un autre cadre d'action que nous, on peut avoir. Et vous avez aussi reçu le magazine Histoire Québec. Peut-être pour aller dans le sens de M. Brogard, effectivement, le magazine, ça se finance pas. Ça s'autofinance pas, un magazine. Le contexte de la fédération fait que j'ai un auditoire quand même assez large. Ça me permet de publier. Je publie 3 fois par année au lieu de 4. Alors, je suis presque pas un vrai magazine. Habituellement, c'est 4 parutions. Je vous mentirais si je vous dis pas que je suis toujours en train de chercher du membership pour la fédération, qui sont abonnés au magazine, des abonnés au magazine, et on pige un peu tout le monde dans la même assiette publicitaire. Et des fois, je vois certains organismes qui pigent dans cette assiette-là, je me demande qu'est-ce qu'ils font là. En théorie, c'est eux autres qui financent. Alors, en tout cas. Des fois, j'ai des surprises. Le magazine, c'est pas le bulletin de la fédération, c'est un vrai magazine qui ouvre la porte à des textes sur l'histoire locale et régionale. Je sais que vous l'avez pas lu, c'est pas ici qu'il faut faire ça. Alors, c'est pas facile. Et à la fédération, nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'on réfléchit dans le moment, c'est de s'adapter. Effectivement, le virage numérique, c'est un virage qu'on est en train de prendre nous aussi. Effectivement, ça vend pas fort non plus, mais on est partout. Alors, c'est le seul avantage qu'on trouve à ça pour le moment. On est convaincu que si on veut être encore là, il faut s'adapter et il faut surtout, et je pense que c'est ça qui fait peur à tous, il va falloir changer, devenir autre chose et devenir quelque chose qui va être cohérent, justement, qui va rejoindre plus de clientèle. Et le changement, je pense que c'est ce qui fait peur à tous. Et c'est le grand défi, je pense, de chacun de nous. Voilà.
Merci beaucoup, madame. Monsieur Émile Robichaud.
Je suis un excellent bricoleur. Alors, je voudrais simplement rassurer les gens qui ont de la difficulté avec les systèmes IKEA, c'est qu'il y a un code secret qui n'est connu que des bricoleurs. Alors, voici, madame Mimbaud, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. L'anecdote du petit garçon qui revient chercher le livre. Jacqueline de Remilly. Jacqueline de Remilly, la grande helléniste, la grande spécialiste de Thucydide, raconte dans son livre magnifique qu'elle a consacré à l'histoire de sa mère, qui s'appelle Jeanne, qu'à l'âge de 12 ans, sa mère est revenue des quais de la Seine avec une série de 7 bouquins qui étaient l'histoire de Thucydide en latin. Et vous savez que Madame Demeuillet est devenue la grande spécialiste de Thucydide. Tout ça pour dire que l'importance physique de la présence des livres. Quand on était jeune, il y avait chez nous la fameuse encyclopédie de la jeunesse, qui était plus qu'un livre dans la maison, c'était une présence. Je suis encore dans le monde de l'éducation, et je peux vous assurer que si on utilisait mieux les bibliothèques d'école, si on mettait en présence des enfants une espèce de défi, la présence physique du livre jouerait son rôle. Donc, je vais insister là-dessus. Si on veut que nos enfants s'intéressent aux livres, et je remercie tout ce qu'a fait Denis dans ce sens-là, ça me rappelle notre belle expérience, Denis, du Boréal Express, c'en est un bel exemple d'une adaptation de l'histoire et une façon de rendre ça présent aux enfants. Donc, l'importance physique du livre, je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
Oui, absolument. Merci beaucoup. Je me souviens, moi aussi, à 10 ans, d'avoir été dans la bibliothèque de mon école primaire et de lire le Boréal Express, le journal de l'histoire. C'était ma première entrée, moi aussi, dans l'histoire. Donc, merci beaucoup, 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard. Alors, ceci clôt cette quatrième et dernière table ronde, quatrième et dernière séance de ce colloque. Je vous remercie beaucoup pour vraiment clore officiellement ce colloque. Vous savez que c'était un colloque qui était organisé conjointement entre la Fondation Lionel Groulx et l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Donc, pour ouvrir ce colloque, nous avons eu la présence de Claude Bellan, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation Lionel Groulx. Eh bien, pour le clore maintenant, nous recevons le président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, professeur Martin Paquin.
Mesdames, Messieurs, il y a quelques années, l'énergique Robert Comeau m'avait rejoint pour me proposer justement de faire un événement particulier pour commémorer le 100e anniversaire de l'instauration de la chaire d'histoire du Canada à l'Université Laval de Montréal, que j'aime bien dire, par le chanoine Lionel Groulx. C'est avec très grand enthousiasme que j'ai accueilli l'idée, c'est avec très grand enthousiasme également que l'Institut d'histoire de la langue française voulait également participer avec la Fondation Daniel Groulx, parce que nous avons justement la même paternité, nous avons le même père avec le Daniel Groulx, et nous avons des missions qui sont tout de même assez similaires là-dessus. L'Institut a une mission particulière, et c'est une société savante qui s'engage justement pour le développement et la connaissance dans le domaine de l'histoire de l'Amérique française, comme on le concevait en 1947, lorsque le chanoine Groulx l'a fondé, avec la revue et ses congrès en tant que tel. Hier, j'écoutais Yves Gingras qui parlait des relations entre Lionel Groulx et le frère Marie-Victorin, Pierre Dansereau, et une allégorie est apparue à ce moment-là pour mieux cerner, justement, pour mieux marquer, justement, l'importance de cette présence de l'histoire dans nos vies. C'est celle de l'écosystème. Un écosystème, c'est un environnement qui est varié, avec des gens, avec des individus, avec des éléments qui participent chacun à leur façon, justement, au développement des connaissances sur le passé, à leur actualisation dans le présent et à leur projection vers l'avenir. Eh bien, Lionel Groulx avait conscience de cela en 1915. En 1915, il était important d'instituer l'histoire à l'université pour permettre justement le développement de ses connaissances sur l'histoire. Et c'est un contexte très particulier, nous l'avons entendu hier, c'est la période de la Première Guerre mondiale, c'est la période du règlement 17, bientôt c'est les tensions extrêmement grandes en tant que Canadiens-Anglais et Canadiens-Français qui vont dégénérer, entre autres, avec la crise de la conscription. Donc, il y avait une pertinence sociale qui est importante à ce moment-là, une pertinence que Lionel Groulx disait à ce moment-là nationale. Lorsqu'on crée l'Institut en 1947, c'est un autre contexte. Un autre contexte, c'est celui de l'après-guerre, c'est celui de l'accès à l'éducation de masse, à la démocratie de masse en tant que telle. Et il est important, justement, de créer des associations, des sociétés savantes, dans lesquelles nous puissions discuter entre pairs, être un lieu d'échange scientifique ici, un lieu de formation de la relève historienne. Et c'est dans ce sens-là que Lionel Groulx avait conçu, justement, l'Institut. Et donc, commémorer Lionel Groulx aujourd'hui, c'est commémorer le travail inlassable d'un devancier, de quelqu'un qui a contribué à ce que cet écosystème soit aussi effervescent aujourd'hui, aussi différent ce qu'il est. Vous l'avez entendu, entre autres, dans la dernière table ronde, justement, où la diffusion de l'histoire, elle est plurielle, où que les historiens sont, et les historiennes, pratiquent dans différentes aires du métier. Ils ne sont pas seulement cantonnés dans leur chair, ils vont participer à chacun à leur façon et chacun de son talent, évidemment, parce qu'on pourrait sortir même la parabole des talents de l'Évangile ici, mais chacun de leurs talents contribue ici. Et c'est pour ça que cet événement est important. C'est le moment de réfléchir pour l'action, pour que ce travail des devanciers puisse éventuellement avoir une résonance, une pertinence dans le présent et ensuite un développement vers l'avenir. Donc, en cette fin de colloque, il me reste à remercier évidemment toute une série de personnes qui ont participé à la réussite de ce colloque. Donc, c'était une initiative conjointe de la Fondation Lionel Groulx et de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Donc, ces deux organismes en sont remerciés. Nous avions un comité scientifique consultatif qui était particulièrement actifs, qui nous ont permis, entre autres, d'avoir des conférenciers et des conférencières de grands talents qui sont venus nous dispenser leur science et leur sapience tout au long de ces deux jours. Je souligne, entre autres, la contribution de Louise Bienvenu, de Julien Goyette, de Xavier Gélina, de Michel Bock, de Jonathan Livernois et de Marie-Pierre Luneau. Nous avons eu également un comité organisateur qui était particulièrement efficace ici et qui nous a permis, justement, de permettre de nous accueillir dans ce cadre particulier des Archives nationales du Québec. D'ailleurs, je tiens à remercier évidemment les instances de la Bibliothèque nationale, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, excusez-moi, ici à Montréal. Donc, je tiens à remercier les gens du comité organisateur, Éric Bédard, Jacques Beauchemin, Harold Bérubé, Robert Comeau et Karine Hébert. Je tiens à remercier les conférenciers, conférencières et différents panélistes qui sont présents. De manière plus particulière, pour les gens de la Fondation Lionel Groulx, je tiens à remercier parce que vous avez été accueillis avec un charme et une énergie remarquable par Myriam Darcy, Mathieu Gauthier-Pilote et Étienne Lafrance, et pour l'Institut sur la langue française par Jean-François Cardin et Anne-Frédérique Morin. Enfin, nous avons eu droit à un maître de cérémonie qui a animé tout au long de ces séances, justement, qui nous a permis d'échanger nos connaissances, de partager nos idées, de faire ce lieu d'échange scientifique et d'échange mémoriel particulièrement important. Je tiens à remercier M. Pierre Gravelin, ici présent. Enfin, pour conclure, l'histoire, c'est nous. Nous avons tous un rôle à jouer, tout un rôle à jouer, à la fois comme producteur à différents titres, comme récepteur de cette histoire en tant que telle. C'est cette présence au passé que nous avons désormais. Cette présence à la passée, elle est tournée vers l'avenir. C'est ce à quoi je vous invite, désormais, en quittant cette salle, à faire vivre cette histoire dans notre société. Je vous remercie et bonne fin de semaine.